Bonsoir à tous, bonsoir Marlène.
Bonsoir Wendy.
Et ravi de vous retrouver à l'écoute de ce monde qui change et que nous suivons ce soir encore jusqu'à 20h. 18h15 justement et précisément, nous irons voir en Normandie comment se déroule le déconfinement depuis 6 jours alors que le ministre de l'Intérieur était en visite sur les plages de Seine-Maritime aujourd'hui. C'est Hervé Morin qui est en direct avec nous dans quelques instants. 18h30, on refait l'actu avec ces maires élus il y a 2 mois et qui seront enfin installés officiellement dans leur commune dès lundi. 18h40, deux artistes à mes côtés sur Europe 1, l'humoriste et chanteuse Christelle Chollet, le comédien Philippe Lelouch, 1 siège sur 2 dans les théâtres, le port du masque obligatoire, veulent-ils de cette culture-là? On les entend. 18h50, une chanson dans la tête, en ce jour d'Eurovision annulée, une première dans l'histoire du concours. C'est Fabien Lecoeuvre qui, comme chaque week-end, nous éclaire et il revient sur les titres qui n'ont pas gagné l'Eurovision mais qui ont eu un grand succès populaire comme celui-ci à l'instant 1, 2, 3. 19h15, quelle perspective économique en France avec cette pandémie? Hier à l'Elysée, Emmanuel Macron a reçu des économistes, analyse et réaction d'Éric Heyer de l'OFCE. Et puis un vaccin dans 18 mois, 2 ans peut-être, le début des essais cliniques cet été en France. L'Institut Pasteur travaille d'arrache-pied avec ses chercheurs et nous serons sur place avec eux sur Europe 1. Merci de nous être fidèles. Voici pour commencer le journal de 18h qui vous est présenté par Fabienne Lemoyle. Bonsoir Fabienne.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
18h.
On attendait ça tellement depuis longtemps que on est heureux là. La mer elle est pas top, mais bon, on avait tellement hâte d'y aller qu'on est allé quand même. On s'amuse.
Les plages de nouveau accessibles comme à Malo-les-Bains dans le nord, mais en mode dynamique, marche, nage, mais pas de bronzette et pas de pique-nique.
Plage sous surveillance pour ce premier week-end déconfiné, comme les gares avec des contrôles renforcés pour vérifier les attestations pour les voyages de plus de 100 km.
Je l'avais pas sur moi, donc ils ont été assez incompréhensifs. Mais bon, j'avais pas le temps ce matin, je suis partie assez tôt.
Une scène inédite cette nuit sur le périphérique parisien, rodéo sauvage d'une 40aine de motos et 8 personnes arrêtées, nous racontera Guillaume Bier.
Et puis retour du foot sur les terrains en Allemagne avec la reprise de la Bundesliga, mais sans public. On est ensemble jusqu'à 20h. Bienvenue à vous tous sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
6 jours que la France a commencé à se déconfiner avec prudence, évidemment. Premier week-end, avec une certaine liberté retrouvée. De quoi vous donner l'envie de prendre un bon bol d'air, Fabienne Lemoyle?
Évidemment, Wendy, à moins de 100 km de chez vous, sauf motif impérieux. Pourquoi pas à la plage? Beaucoup sont de nouveau accessibles depuis cette semaine, encore plus depuis ce matin, en Charente, dans les Landes, en Bretagne, comme à Saint-Malo. C'est le cas aussi dans le nord, à Malo-les-Bains, près de Dunkerque. Mais attention, en mode dynamique, on nage, on marche, mais pas de bronzette. Ce qui ne diffère pas pour autant ceux qui avaient vraiment envie d'un bon bol d'air, comme a pu le constater Maximilien Carlier.
1, 2, 3, parti.
C'est parti. Les pieds dans le sable, les pieds dans l'eau, on est content.
Fanny et son fils Arthur profitent de la plage après le confinement, baignade autorisée, activité paddle juste à côté pour Léa et ses copines.
Elle est un peu froide, mais on attendait ça tellement depuis longtemps que on est heureux là. La mer, elle est pas top, mais bon, on avait tellement hâte d'y aller qu'on est allé quand même. On s'amuse.
Sur la digue, un peu plus de monde, des petits groupes, espacés de plusieurs mètres, enfants, parents, grands-parents. Virginie a enlevé son masque pour savourer sa glace.
À la pomme. Ça fait du bien de prendre l'air, hein. Au soleil, en famille.
Mais madame, s'il vous plaît, avec la poussette, il faut aller de ce côté-là. Là.
Sur place, il y a aussi une vingtaine de médiateurs bénévoles comme David.
Chacun son sens de circulation.
Ils viennent pour faire respecter les distances, éviter les regroupements.
Notre but, c'est de faire en sorte de sensibiliser les gens en étant très pédagogue pour pouvoir réouvrir les plages correctement et éviter justement que le préfet décide de refermer la plage.
Et si les règles sont respectées, il pourrait y avoir plus de souplesse. On pourra peut-être poser sa serviette sur le sable et faire bronzette au mois de juin. Malo-les-Bains, Maximilien Carlier, Europe 1.
Ces plages sont sous étroite surveillance, vous l'avez compris. Les contrôles également renforcés dans les gares pour ce premier week-end post-confinement.
Pauline Jacquot, vous vous êtes rendue gare de Lyon à Paris et le mot d'ordre, c'était plutôt pédagogie et bienveillance ce matin pour ceux qui n'avaient pas encore intégré toutes les nouvelles règles.
Oui, les agents de police attendaient les passagers à leur descente du train pour vérifier s'ils étaient en possession de tous les documents nécessaires à des trajets de plus de 100 km. Oria est partie de Marseille ce matin sans attestation de déplacement.
Je n'avais pas sur moi, donc ils ont été assez incompréhensifs. Bon, j'avais pas le temps ce matin, je suis partie assez tôt.
Donc pas d'amende pour vous?
Non, pas d'amende pour moi. Pas pour l'instant, en tout cas.
Rappel à l'ordre pour Paul également, qui arrive de Lyon pour un rendez-vous professionnel aujourd'hui à Paris.
J'ignorais qu'il était toujours nécessaire d'éditer des attestations, pour être honnête. Voilà.
Pour faire plus de 100 km?
Ouais, exactement. Et je savais pas, je pensais qu'avec la fin du confinement, il n'y avait plus besoin de faire des attestations.
Mais au-delà de ces cas particuliers, le capitaine David tire un bilan positif de ce premier samedi de déconfinement.
L'ensemble des usagers, là, comme vous pouvez le voir, on porte leur masque, on compris les consignes sanitaires. Et concernant les attestations, je constate que mes effectifs n'ont pas de difficultés concernant les attestations. Les personnes les présentent et les différents documents sont remplis et correctement présentés.
Si ce n'est pas le cas dans les jours à venir, le chef de brigade rappelle que les policiers pourront verbaliser l'amende est de 135 euros.
Pauline Jacquot, Gare de Lyon à Paris.
Et c'est en Normandie que nous irons faire le bilan de 6 jours de déconfinement avec le président de la région, Hervé Morin. C'est chez lui, en Normandie, que le ministre de l'Intérieur s'est rendu aujourd'hui aux abords de la plage de Vol-les-Roses, Fabienne.
L'occasion pour Christophe Castaner de réagir à la décision de l'Italie cette nuit de rouvrir à partir du 3 juin prochain ses frontières aux touristes de l'Union européenne sans leur imposer de quarantaine. Vous allez l'entendre, Christophe Castaner en appelle à une harmonisation, une coordination des règles entre les pays européens.
Je pense que il est essentiel que nous puissions avoir des décisions coordonnées au niveau européen, surtout sur l'infra-Schengen. Et ça n'est pas le cas aujourd'hui. Et la décision unilatérale de l'Espagne cette semaine, de l'Italie annoncée ce matin, ne conforte pas ce que nous devons faire, travailler ensemble en solidarité. Donc j'aurai l'occasion d'échanger avec mon homologue dans le week-end pour que nous puissions adapter nos règles. Si certains pays font en sorte que la protection de l'espace européen, notamment vis-à-vis de pays où le virus est encore très actif, ou même au sein de l'Europe vis-à-vis de territoires sur lesquels le virus serait encore très actif, nous serons amenés à proposer au Premier ministre de prendre des décisions qui protégeront les Français.
Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner.
Et puis, scène totalement inédite cette nuit sur le périphérique parisien, une quarantaine de motos qui se sont livrées à un rodéo.
Ça s'est passé entre la porte de Saint-Cloud et la bretelle qui mène vers l'autoroute A1. Résultat, 8 suspects arrêtés et un motard de la police blessé, Guillaume Bier.
Oui, de la porte de Saint-Cloud jusqu'à l'autoroute A1, une chevauchée sauvage à très grande vitesse sur une quinzaine de kilomètres, des engins parfois sans immatriculation, poursuivis par les policiers. Et vers minuit, près du Stade de France, un motard de la police engagé sur cette intervention a été accidentellement percuté par une voiture. Il est hospitalisé, mais ses jours ne sont pas en danger. Un rodéo urbain que dénonce Yvan Assioma, délégué à Paris du syndicat Alliance.
Ce phénomène de rodéo sauvage, c'est un véritable fléau de la route. On a affaire à des gens qui ne respectent absolument pas le code de la route, qui circulent à vive allure, à plus de 100 km/h, presque 2 fois la vitesse autorisée sur le périphérique. Ils ont fait des demi-tours sur le périphérique, roulé à contresens, créé une véritable panique chez les usagers de la route. Majoritairement, on se trouve avec des gens qui n'ont pas le permis de conduire sur ce genre de phénomène. Ce sont des véritables dangers de la route. Le problème, il est que les réponses pénales ne sont pas toujours à la hauteur des risques qu'ils font prendre à l'ensemble des usagers.
Au total, 8 suspects ont été interpellés, originaires de banlieues parisiennes pour la plupart. Ils sont poursuivis pour refus d'obtempérer et mise en danger de la vie d'autrui.
Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1.
À la une encore, la France demande la libération immédiate de la chercheuse franco-iranienne Fariba Adealka, condamnée à 5 ans de prison.
Jean-Yves Le Drian dénonce une condamnation politique alors que l'anthropologue est détenue depuis 1 an en Iran. Elle était jugée pour collusion en vue d'attenter à la sûreté nationale. Une condamnation que redoutait sa collègue Corinne Hibou, directrice de recherche au CNRS et membre de son comité de soutien.
On s'y attendait, mais quand ça arrive, c'est toujours extrêmement lourd et voilà, et nous sommes tous atterrés. L'avocat peut et va déposer un appel, sachant ce qui est plutôt positif, c'est qu'en Iran, l'appel peut au pire confirmer la condamnation, mais il ne peut jamais l'aggraver et il peut au contraire la diminuer. Alors Fariba Adelha reste incarcérée dans le quartier des femmes de la prison d'Evin. Elle est en meilleure santé que juste après sa grève de la faim, évidemment, mais elle reste affaiblie par cette longue grève de la faim qui a quand même altéré une partie de ses reins. Elle est droite dans ses bottes, comme on dit, et elle reste très, très combative et avec un bon moral.
Un témoignage recueilli par Nicolas Feynman, depuis noté l'arrestation après plus de 25 ans de cavale de celui qui est considéré comme le principal financier du génocide rwandais, Félicien Kabuga. 84 ans, a été arrêté ce matin en banlieue parisienne. Il est notamment accusé d'avoir créé les principales milices bras armés du génocide qui a fait 800 000 morts en 1994.
Alors que la France, Fabienne Lemoyle, a décidé de stopper et de mettre un point final au championnat de foot de Ligue 1 cette saison, eh bien les footballeurs allemands chaussent eux les crampons pour finir cette saison.
Et retour sur le terrain cet après-midi pour la Bundesliga après 2 mois d'arrêt, mais des rencontres jouées sans public avec un match phare, le Borussia Dortmund face à Schalke 04, dans une ambiance forcément particulière, Jean-François Pérez.
Dans l'immense stade de Dortmund, la musique joue avec l'écho des tribunes vides. Atmosphère irréelle, les joueurs ont les yeux rivés sur les sièges inoccupés. Les staffs techniques et les remplaçants pénètrent dans l'arène, masqués et même gantés pour certains. Un réalisateur de science-fiction aurait adoré. Plus de musique, une fois le coup d'envoi donné, plus d'ambiance non plus, hormis les cris d'encouragement des joueurs, inaudibles en temps normal, et ceux des entraîneurs, debout, bras croisés devant leur banc de touche. Sur le terrain, le jeu se déroule lentement. On sent le manque d'entraînement et de repères après 2 mois sans compétition. À la demi-heure de jeu, le prodige du Borussia, Erling Haaland, ouvre le score, célébration discrète. Ce ne sera pas le cas sur tous les stades où la distanciation sociale obligatoire sera parfois largement bafouée. Double peine aussi pour les remplacés, obligés à la sortie du terrain de se frotter les mains au gel hydroalcoolique et de revêtir un masque, vraiment pas évident quand on est essoufflé. Dortmund s'impose 4-0 sans autre passion que celle des joueurs qui iront saluer à la fin du match des tribunes vides, histoire d'envoyer une pensée symbolique à leurs supporters. Ce samedi, le foot a repris en Allemagne, mais son esprit est encore loin.
Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1.
Merci Fabienne Lemoyle, on vous retrouve demain à la présentation d'Europe Midi et pour le journal de 18h sur Europe 1. Ce sport à huis clos, on en reparlera aussi avec ses impressions aux côtés de Frédéric Dabi à 19h30 et probablement dans votre émission dès 20h, Europe 1 Sport. Bonsoir Lionel Rousseau.
Bonsoir Wendy, en effet on va parler de la reprise du foot allemand à huis clos, mais on va parler aussi de l'action qui se déroule sans jouer à l'Olympique de Marseille. C'est la crise sportive avant même que le championnat ne reprenne et la saison prochaine avec la Ligue des Champions, puisqu'en Denis Zubizarreta, le directeur sportif, a quitté le club. Il se pourrait donc que l'entraîneur miracle Villas-Boas quitte lui aussi le club. C'est la crise et les supporters ne supportent plus le président actuel, Jacques-Henri Hérault. Il va se passer énormément de choses et on va évoquer toutes les tergiversations et les possibilités qui pourraient arriver au sein de l'Olympique de Marseille, donc dans les prochains jours et les prochaines semaines. Même le professeur Didier Raoult apparemment peut pas régler le problème, donc c'est grave.
Eh ben, c'est dire. Merci Lionel Rousseau, à partir de 20h sur Europe 1, tout à l'heure. On fait un petit point météo, Valérie Darmon. Sachez que demain dimanche, eh bien, c'est un soleil au beau fixe pour quasiment la majorité d'entre nous, Valérie.
Tout à fait, de la façade atlantique à l'Alsace, à la Franche-Comté, en remontant vers les côtes de la Manche, vous profiterez d'une très belle journée ensoleillée, y compris le bassin parisien. Et c'est seulement des Pyrénées aux Alpes et à la Méditerranée que le ciel est nuageux, voire menaçant et pluvieux en matinée. L'après-midi, ce risque d'averse se renforcera, tournant toujours à l'orage, un petit peu comme ce samedi, mais en un petit peu moins marqué. Mistral et Tramontane soufflent jusqu'à 60 km/h en rafale. Les températures du matin oscilleront entre 9 et 12 degrés, 20 à 23 l'après-midi avec un maximum de 25 en Corse. Ces valeurs qui reviennent pour toutes dans les normales de saison.
Merci Valérie Darmon et on refait un petit point météo bien sûr dans un bon quart d'heure. Jusqu'à 20h, c'est le grand journal du soir sur Europe 1. À suivre Wendy Bouchard. Oui, et bien à suivre probablement des Français qui voudront aller sur ces plages sous surveillance évidemment. 6 jours de déconfinement en Normandie, on fait le point avec le président de la région. Respect des règles ou manquement, port du masque et ouverture de ces littoraux, justement, c'est Hervé Morin qui nous répond dans quelques secondes sur Europe 1. À tout de suite.
18h-20h, Wendy Bouchard vous informe sur Europe 1.
18h13, la suite du grand journal du soir sur Europe 1 avec vous, Wendy Bouchard. Nous sommes le samedi 16 mai, au cœur du premier week-end depuis la levée du confinement. Bonsoir Hervé Morin.
Bonsoir.
Et merci de venir nous livrer le bilan de ces 6 premiers jours de déconfinement, vous qui présidez la région Normandie. Et alors que Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, a fait le choix de votre région pour ce premier samedi, en visite en Seine-Maritime, l'un des départements... Absolument.
Si vous ne connaissez pas, c'est un des plus beaux villages de France.
Vous n'étiez pas à ses côtés, Hervé Morin, mais vous avez peut-être vu ces images circuler. Un ministre qui n'a pas vraiment respecté les mesures barrières, on l'a vu à moins d'un mètre, aux côtés d'enfants, de promeneurs. Ah, c'est une image qui a beaucoup circulé sur les réseaux. Que vous inspire cette attitude d'abord sur l'exemplarité politique dans ce message sanitaire?
Écoutez, j'ai pas vu les images, mais si vous me le dites, je sais qu'il m'est arrivé, pour tout vous dire, une ou deux fois aussi, d'être sur des photos avec des distances que celles et ceux qui regardez les photos, trouvez trop petites. Et à chaque fois, on nous dit, mais attendez, vous êtes élu, montrez l'exemple. Mmh. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on ait cette attention permanente pour que, bien entendu, on puisse dire, voilà, c'est prioritaire et c'est essentiel. Le masque n'est obligatoire que dans les transports en commun. En revanche, la distanciation, elle doit être absolument la règle de tous les jours.
D'autant que le ministre de la Santé, dans un message qu'il a posté aux différents Français sur les réseaux, a rappelé la nécessité de la vigilance. Le virus continue de circuler sur notre territoire, il continue de contaminer, il continue d'envoyer des gens en réanimation. Dans votre région, Hervé Morin, vous pouvez aujourd'hui acter d'une bonne tenue de ce comportement citoyen en Normandie depuis 6 jours maintenant?
Écoutez, on a deux ou trois sujets qui nous permettent de constater que nos compatriotes sont extrêmement attentifs. Le premier, c'est le respect des règles dans les transports en commun et notamment dans nos trains. Bon, on n'a pas une influence non plus considérable, hein, il faut le dire. Le second, c'est à l'école. Là aussi, alors c'est très variable d'une école à l'autre, mais pour les écoles que je connais le mieux, on a un taux de scolarisation qui est extrêmement faible, qui d'ailleurs ne s'adresse pas pour l'essentiel à ceux que visait le chef de l'État en annonçant la rouverture des classes au mois de mai, puisque ce ne sont pas les enfants nécessairement déscolarisés qui ont pris le chemin du retour à l'école. Mais là aussi, tout le monde est extrêmement vigilant. Et troisième élément, c'est le transport scolaire. Mmh. On voit que là aussi, les gens respectent les règles.
Vous avez milité avec d'autres élus, Hervé Morin, pour la réouverture des plages. Le ministre a rappelé la règle aujourd'hui. L'accès aux plages est interdit, mais sur proposition des maires et sous réserve d'un aménagement qui garantit la sécurité, eh bien le préfet a la possibilité d'ouvrir l'accès à la plage. C'est fait maintenant dans 13 communes du Calvados, quasiment partout en Seine-Maritime. Vous serez extrêmement vigilant sur la sécurité, sur ces espaces de vie qui ont tant manqué aux Français.
Faites confiance aux maires pour organiser les choses. Ils ont été capables d'interdire l'accès aux plages, ils ont été capables d'assurer le fonctionnement des services publics, ils ont été capables d'assurer des solidarités de proximité, ils ont été capables de faire en sorte aussi que certains de nos compatriotes respectent les règles quand ils avaient tendance à ne pas les respecter. Très franchement, moi, j'ai confiance dans les maires et dans leur capacité à pouvoir mettre en œuvre des mesures qui permettent l'accès aux plages. Il eût été stupide que les plages soient le seul lieu, le seul espace, le seul domaine public qui reste et qui demeure interdit, plus encore dans une région où nous avons une chance exceptionnelle, c'est-à-dire avec une profondeur de plage absolument exceptionnelle. Je cite toujours cet exemple parce qu'il est assez frappant. La plage de Granville, c'est 1 million de mètres carrés à marée basse. Mmh. La plage de Cabourg, c'est 450 000 mètres carrés à marée basse. Donc vous voyez bien qu'on est sur des espaces infinis et que personne ne comprenait qu'on nous interdise l'accès à nos plages. Est-ce que les règles qui ont été adoptées sont les bonnes? Je le crois. Ce qu'on autorise, ce sont des déplacements, ce qu'on appelle dynamiques. En clair, vous ne pouvez pas mettre votre serviette sur la plage ou pas faire une partie de foot ou une partie de volley. En revanche, vous pouvez courir, marcher, aller à la pêche à pied, avoir des activités nautiques, dès lors qu'elles sont des activités seules. Tout ça me semble parfaitement conforme au reste de la vie. On ne voit pas pourquoi on pourrait aller dans un magasin acheter des vêtements et ne pas aller sur une plage. Enfin, franchement.
Écoutez, vous avez été entendu. Cette politique, pour l'instant, est actée et encadrée. Pour les tests, j'aurais voulu vous interroger également, Hervé Morin, alors que la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, s'engage ces heures-ci à fournir 5 millions de tests sérologiques à disposition des entreprises, des associations, des différentes collectivités, dans une politique qu'elle souhaite volontariste sur le terrain du dépistage. Est-ce que vous abordez le sujet de la même manière pour la région Normandie, Hervé Morin ?
Écoutez, on a déjà beaucoup suppléé à l'État. On a été capable de faire ce que l'État n'était pas capable de faire, c'est-à-dire d'acheter des masques. Nous avons été libérés de l'interdiction d'acheter un vendredi. Moi, le dimanche matin, je signais pour 2 750 000 masques que j'ai donnés au personnel soignant. Nous avons ensuite eu différentes politiques, permettre la reprise des entreprises. Là, on a livré 3 900 000 masques. On a permis aux maires qui le souhaitaient d'acheter des masques pour leurs concitoyens ou pour leurs services publics. On en a acheté 2 millions. Et donc, il y a un moment, si vous voulez, dès lors que l'État me dit « moi, je suis capable de faire, j'aurai les tests nécessaires », je trouve qu'il faut que chacun soit là où il doit être. On a déjà, pour nous, d'immenses défis, notamment la question du soutien à l'économie, qui est terriblement affectée, et donc le soutien au tourisme. On a aussi la nécessité de préparer une rentrée scolaire qui s'annonce d'une part beaucoup plus coûteuse et extrêmement compliquée à mettre en place. Vous voyez bien qu'on ne va pas pousser les murs des lycées pour doubler le nombre de classes. Et donc, il faut inventer un nouveau modèle scolaire, inventer un nouveau modèle scolaire avec des coûts complémentaires. On a des bus qui ne peuvent transporter que la moitié des élèves. Là aussi, ce sont des coûts supplémentaires. Et donc, pour ma part, je considérais que dès lors que l'État me disait « j'ai des tests », je fais confiance.
Région touristique, la Normandie, vous l'évoquiez à l'instant, région de cheval également, vous êtes bien placé pour le savoir. Hervé Morin, vous satisfaisez ce soir que les centres équestres puissent rouvrir progressivement qui ont tant pâti aussi de ce confinement.
Oui, vous savez, dans le cadre de cet effondrement économique auquel nous assistons, là, en plus on est dans une espèce de faux plat, c'est-à-dire qu'on a le chômage technique. Et puis, à partir du mois de juin, le chômage technique va se réduire et on va malheureusement constater là les plans sociaux, les dépôts de bilan, etc.
Bien sûr.
Et donc, les centres équestres font partie de toutes ces entreprises qui ont continué à avoir les mêmes coûts sans avoir aucune recette. C'est-à-dire, en clair, il n'y a pas de chômage technique parce que les chevaux, il faut les nourrir tous les jours. Je prends un autre exemple, je suis allé dans un zoo. Très joli zoo, qui est le zoo de Jurc, que je vous invite à visiter avec vos enfants, je dis ça aux auditeurs d'Europe 1, les tigres et les girafes, il faut continuer à les nourrir. Donc en clair, vous avez 15 salariés, zéro recette, et en plus une activité qui est une activité saisonnière. Donc dans tous ces cas de figure, plus tôt on peut reprendre, mieux c'est, parce qu'il y a un moment où l'équation devient absolument impossible.
Dernière question au président du parti centriste européen convaincu. L'Italie a décidé de rouvrir, Hervé Morin, ses frontières à partir du 3 juin aux touristes, aux voyageurs internationaux, sans quarantaine. Cette décision aurait-elle pour vous nécessité une coordination européenne?
Écoutez, moi, l'européen que je suis me fait dire depuis des mois et des mois qu'il faut refonder l'Europe, la reconstruire, que les initiatives du président de la République si volontaristes furent-elles, ont échoué, qu'il y a très clairement besoin de rebâtir un nouveau modèle européen, et que ce modèle européen, il est en lambeaux aujourd'hui. Il faut se dire tel qu'il est, tel qu'on peut le constater tous les jours. Il n'y a plus aucune volonté européenne comme on a pu le connaître du temps de la Belle Époque, avec Jacques Delors à la tête de la Commission européenne, et des chefs d'État qui voulaient bâtir cet espace de solidarité et cet espace puissance. Aujourd'hui, on est face à une Europe fractionnée, une Europe impuissante, et très clairement, il faudra un jour ou l'autre réécrire la page européenne.
Donc oui, la coordination aurait été nécessaire.
Oui, c'est ça,
épidémique. Hervé Morin, président de la région Normandie, merci de votre premier bilan et de vos réflexions ce soir sur l'antenne d'Europe 1. À bientôt.
18h-20h, le grand journal du soir. Le week-end, c'est avec vous, Wendy Bouchard. 6 jours de déconfinement et une question encore ce soir.
Oui, comment les résidents des EHPAD, comment les personnels reprennent très, très progressivement leurs habitudes? Nous allons dans la Vienne dans un instant.
On vous retrouve, Wendy Bouchard, pour la suite du Grand Journal du Soir sur Europe 1 avec une question à 18h24. Quelle situation dans les EHPAD après une semaine de déconfinement? Est-ce que les mesures se détendent dans ces établissements si sensibles?
Oui, mais très progressivement, cet établissement où l'épidémie aura été redoutable, un retour à une situation plus normale se fera doucement, par paliers, jusqu'à l'été, alors que les visites sont de nouveau autorisées de manière très encadrée, que les kinés, les psychologues commencent aussi à revenir sur place comme les médecins de famille. Bonsoir. Bonsoir Éric Angelo Bellini.
Bonsoir.
Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Nous avons suivi la situation assez régulièrement avec vous, chez vous, dans votre établissement l'EHPAD des Rousselières à Pleumartin, dans le nord de la Vienne. Vous qui avez pris le parti de vivre en vase clos avec votre personnel confiné. Grâce à cette politique, Éric Angelo Bellini, aucun cas de Covid, c'est déjà une grande satisfaction, on imagine. 70 jours d'efforts que vous analysez et que vous payez comment aujourd'hui, si j'ose dire?
Bah d'abord, on est fatigué. Le personnel et tout le monde est là, toujours. 70 jours après, l'ensemble de l'équipe est présente. Tout le monde est fatigué, tout le monde est un peu épuisé. Il faut sortir. Enfin, on l'avait dit en rentrant. On avait dit qu'on voulait pas confiner, qu'on voulait pas rentrer, qu'on le faisait par défaut. Donc voilà. On a, nous, depuis lundi, été obligés de redoubler d'efforts par rapport à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on sait que le virus recircule, qu'il va recirculer. Inévitablement, il n'y a pas de raison qu'il circule de partout, sauf à Pleumartin. Donc il faut qu'on soit très attentif à ne pas le rentrer. Ce qui fait que les visites des familles sont très encadrées, il n'y a absolument rien de spontané là-dedans. Il y a des familles qui sont venues une fois et qui reviennent pas parce que c'est pas du tout ce qu'elles veulent. Il y a des résidents qui le vivent mal parce que c'est pas ce qu'ils veulent. Je pense que tout le monde redécouvre que ne pas toucher les gens qu'on aime, ne pas pouvoir les serrer dans ses bras, c'est très compliqué. Donc voilà, on en est là, mais on tient. Le moral est bon, le physique commence à être un peu usé, mais le moral est bon.
Oui, j'entends, Éric Angelo Bellini, ce que vous dites aussi, capital, hein, pas de tendresse tactile, donc la difficulté de ces retrouvailles. Vous avez pu, le personnel a pu progressivement aussi donc se déconfiner, retrouver les différentes familles, en rendant encore plus exigeant, j'imagine, le protocole sanitaire pour le retour de ces personnels en EHPAD au quotidien.
C'est ça le problème, c'est que on peut pas demander indéfiniment au personnel de vivre dans une bulle et de penser, d'imaginer qu'ils ne rencontreront pas le virus et que c'est des citoyens comme les autres, ils ont des familles, les enfants ont repris l'école, les conjoints ont repris le travail, donc il faut aussi retrouver comme tout le monde un équilibre dans la vie familiale. Et c'est un challenge encore plus dur qui est de ne pas, j'allais dire, hypothéquer le travail fait depuis maintenant 70 jours par un petit moment d'inattention, par un petit moment de lassitude, parce que ce qui est très difficile pour nous, c'est que tout ce que nous faisons au quotidien ne se mesure que parce qu'il ne se passe rien.
C'est ça.
C'est-à-dire que nous, la mesure de l'efficacité de nos efforts, c'est qu'il ne se passe rien.
C'est la non-présence.
Et mesurer ça, pour les familles, pour les personnels, c'est extrêmement compliqué.
Alors concrètement, certains EHPAD ont envisagé cette semaine de déconfiner certains résidents de leur chambre pour retrouver des repas en commun, pour retrouver des temps d'animation. Le faites-vous aussi dans votre établissement?
Oui, les résidents le demandaient. Après décision et discussion avec l'ensemble de l'équipe, on s'est dit que si on était, nous, très rigoureux par rapport au confinement externe, c'est-à-dire par rapport à nos sorties et à nos vies en dehors de l'établissement, si on peut être, nous, très vigilants là-dessus, si on peut mettre en place un certain nombre de protocoles pour essayer de ne pas rentrer le virus dans l'établissement. Nous, par exemple, très clairement, pour l'instant, à part le kiné sur des actes très très indispensables, on n'a pas réouvert à qui que ce soit d'autre. Hein, c'est-à-dire que pédicure, médecin de ville, télémédecine. On est très prudent parce qu'on sait que c'est très fragile et que être très prudent et très rigoureux sur ce confinement externe nous permet d'être plus souple et d'alléger le confinement interne. On a remis en route une vie par unité de vie, par petite unité de vie, avec des temps de restauration collectifs, avec des temps d'animation semi-collectifs, c'est-à-dire des petits groupes. C'est très compliqué. J'entendais Monsieur Morin avant expliquer que c'était compliqué d'avoir des mètres carrés ou des bûches pour transporter tout le monde. Bah, dans un EHPAD, on peut pas construire. Donc, quand on a une salle à manger pour 50, qu'on veut mettre de la distance, du coup, elle fait plus que pour 15, quoi. Donc, voilà. C'est ça qui rend les choses difficiles.
À l'antenne, Eric Angelo Bellini pour cet établissement Les Rousselières dans la Vienne. Merci de votre présence sur Europe 1. Je voulais terminer avec quelques notes de musique classique parce qu'à la faveur de l'assouplissement quand même des règles de distanciation, l'Orchestre de Chambre de Paris organise des petits concerts extérieurs en solo et en duo pour les résidents d'EHPAD. Écoutez ce duo par exemple. Duo de trompette à Paris, à l'EHPAD Alquier de Brou, ce sera dans le 20e lundi. Duo de cordes mercredi à Bobigny, à l'EHPAD Hector Berlioz. Et puis la semaine du 25, en centre d'hébergement d'urgence du SAMU social. Voilà, salut à l'Orchestre de Chambre de Paris qui essaye d'égayer un petit peu la vie de ses pensionnaires.
18h30, le grand journal du soir, la suite sur Europe 1, Wendy Bouchard.
Eh bien la suite c'est l'essentiel, Marlène, de l'actualité avec Sophie Tussaud. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. Le retour des Français à la plage, en forêt ou à la montagne, des escapades permises uniquement sous forme dynamique, sans bronzette ni pique-nique et pas à plus de 100 km du domicile. Le couvre-feu de trois communes de l'Oise suspendu, il avait été décrété à Compiègne, Creil et Nogent-sur-Oise en mars dernier. L'Italie rouvrira ses frontières le 3 juin. Elle accueillera de nouveau les touristes de l'Union européenne et supprimera la quarantaine obligatoire pour les voyageurs étrangers de la péninsule. Les compagnies aériennes envisagent la reprise des vols nationaux le mois prochain, continentaux dès juillet. Un processus sanitaire doit être présenté à la fin du mois, annonce de l'IATA, l'Association internationale du transport aérien. En Allemagne, le retour sur le terrain des footballeurs avec la reprise de la Bundesliga, des matchs à huis clos, sans spectateurs. En parallèle à cette reprise, des manifestations de militants d'ultra-gauche ou de droite identitaire un peu partout dans le pays pour protester contre la liberté de mouvement et le port du masque. Un mouvement qui inquiète de plus en plus les autorités allemandes. Pas de vaccin avant 18 mois. Déclaration sur Europe 1 de la ministre de la Recherche, Frédérique Vidal, qui contredit Donald Trump qui en annonçait un pour la fin de l'année. Après 25 ans de cavale, l'arrestation du financier présumé du génocide de Rwanda, Félicien Kabuga, l'un des fugitifs les plus recherchés au monde, a été interpellé ce matin près de Paris. Il vivait sous une fausse identité. Paris reste mobilisé pour la libération de Fariba Adelka et dénonce une condamnation politique. L'universitaire franco-iranienne incarcérée depuis l'année dernière à Téhéran a été condamnée ce matin à 5 ans de prison pour collusion en vue d'attenter à la Sûreté nationale.
Merci Sophie Tussaud, à tout à l'heure 19h pour le journal sur Europe 1. Et c'est un temps de plus en plus beau qui nous attend demain dimanche, Valérie Darmon.
Absolument, en raison du renforcement des hautes pressions sur l'Atlantique. Le temps restera calme et ensoleillé sur les trois quarts du pays. Un risque d'averse et d'orage persistera tout de même sur un tout petit tiers sud, en particulier sur les reliefs des Pyrénées, aux plaines du Languedoc, aux Cévennes et à la vallée du Rhône. Mistral et Tramontane soufflent aux alentours de 60 km/h. Des ondées peuvent aussi déborder sur la Côte d'Azur en après-midi. Et sur la Corse, les éclaircies, en revanche, seront de plus en plus larges par rapport à ce samedi. Partout ailleurs, c'est-à-dire sur une grosse moitié nord, c'est une nouvelle journée ensoleillée qui s'annonce, sous des températures pour l'après-midi entre 14 à Caen et 23 à Nîmes.
Du beau temps, nous dit Valérie Darmon. Très bien, on refera un point à la fin du journal de 19h tout à l'heure. L'actu, Wendy Bouchard, après la décision d'Edouard Philippe d'installer rapidement les maires et leurs équipes élues le 15 mars dernier.
Oui, 30 000 communes sont concernées, l'écrasante majorité hein, qui ont eu un maire élu dès le premier tour, mais dont l'élection aura été suspendue le temps du confinement. Et donc, mardi, devant le Parlement, le Premier ministre a validé l'entrée en fonction, à partir de lundi, des conseils municipaux. Bonsoir Nicolas Sauret.
Bonsoir.
Vous êtes presque maire de Joigny, dans l'Yonne. À entendre Edouard Philippe, vous le serez donc officiellement, si j'ose dire, lundi.
Je serai conseiller municipal officiellement lundi, mais il faudra attendre la réunion du conseil municipal qui lui-même élira le maire. Donc je serai, pour ce qui concerne Joigny, a priori maire le 28 mai prochain.
Oui, c'est un long processus qui a été long aussi dans cette gestion de crise. Vous n'avez pas pu prendre à bras le corps les dispositions. Vous avez donc suivi comme élu actuel ou comme conseiller municipal ce qui a pu se passer pendant 2 mois, Nicolas Sauret.
Oui, c'est ça, parce que donc moi j'étais sous ce mandat finissant premier adjoint au maire, donc oui. On est finalement dans la continuité de l'action, donc on ne s'est pas arrêté hein, avec le maire sortant. On a eu pour lui une sortie de mandat, pour moi une entrée de mandat un peu rock'n'roll, on va le dire, comme l'ensemble des élus de ce pays. C'était effectivement pas tout à fait ce qu'on avait imaginé, mais on a été là, on a été sur le pont, bien sûr, pour faire face et pour accompagner les habitants de la ville de Joigny pour traverser cette période.
Elle nous rejoint sur Europe 1, Marie-Claude Jarrot. Vous qui êtes maire sortante de Montceau-les-Mines en Saône-et-Loire, bonsoir.
Bonsoir.
En ballotage favorable à l'issue du premier tour des municipales. Rétrospectivement, est-ce que vous diriez ce soir, heureusement qu'on n'a pas changé d'équipe municipale en pleine gestion de crise, en plein confinement?
Je pense que oui, heureusement qu'on n'a pas changé d'équipe municipale parce que nous étions en contact avec le terrain chaque jour et cela nous a permis d'agir vite, de prendre des décisions tous ensemble et de pouvoir gérer cette crise sanitaire sans précédent avec l'équipe municipale.
Oui, vous n'avez pas été réélu le 15 mars dernier. Vous devez donc attendre, vous, le second tour pour en savoir davantage sur votre sort. Vous n'êtes pas encore concerné donc par cette validation par le Premier ministre. L'attente est longue, trop longue pour vous, Marie-Claude Jarrot ?
Je ne dirais pas cela parce que j'ai dû, avec mon équipe, mettre en place des mesures tout à fait particulières, tout à fait exceptionnelles, de gestion de crise sanitaire, comme je l'ai dit, sans précédent, mmh. Organiser quand même la continuité des services publics, organiser la distribution de masques, la confection, puis la distribution de masques, et aussi rassurer, prendre soin des agents municipaux, mais aussi de la population. Donc, je n'ai pas du tout trouvé le temps long, et de plus, je me suis consacrée entièrement à la gestion de la crise et maintenant je me consacre entièrement à la mise en place du déconfinement, à la réouverture de l'école, à la réouverture des commerces, mmh. à la réouverture des services municipaux, des espaces publics, voilà. etc.
Les maires voilà. en première ligne, et on l'entend, hein, on entend ce côté positif avec Marie-Claude Jarrot. Il en est de même pour vous, Nicolas Sauret. D'après les remontées que vous avez d'autres élus, d'autres maires, cet intervalle s'est déroulé aussi de la meilleure façon qui soit, en responsabilité un peu partout en France?
Oui, c'est le sentiment que l'on a. Et puis moi, je suis comme la collègue qui vient de parler. C'est-à-dire que nous, on n'a pas trouvé le temps long. Hein. C'est-à-dire qu'on a été du matin très tôt jusqu'au soir très tard à l'œuvre. Parce que quand on annonce un déconfinement, ça c'est un confinement plutôt le 15 mars. Il y a la théorie, puis nous on applique, on est dans la pratique hein, très quotidienne. Ça veut dire concrètement, très immédiatement, se dire il faut que les services publics essentiels continuent, il faut que la distribution de l'eau continue, il faut Évidemment. Que l'assainissement continue, il faut qu'on aille toujours collecter les ordures des gens. Mais ça c'est plus pareil. Donc il faut mettre en place les protocoles, s'assurer, comme la collègue l'a dit, parce que nous avons aussi une fonction d'employeur, donc s'assurer que les ressources humaines, les agents de la ville, de l'intercommunalité soient eux-mêmes protégés pour pouvoir aller au combat, pour pouvoir aller au front, pour filer la métaphore qui a été celle du président de la République. Mmh. Et puis après, pendant le confinement, très tôt, vous vous rendez compte qu'il y a plein de petites questions du quotidien pour les gens. Moi, il a fallu que je règle des dizaines de petits sujets. Par exemple, je n'ai plus de piles pour mes prothèses auditives. Ça fait 5 jours que je suis sourd parce que j'ai plus aucun magasin. De toute façon, je peux plus parler. Je peux plus sortir parce que vous pouvez m'aider. Voilà. C'est le genre de choses. On a été vraiment le couteau suisse, quoi. Le couteau suisse des habitants. Et puis, comme la collègue l'a dit, on est passé à la phase de déconfinement qui, elle, pose au moins autant de questions que la phase de confinement.
Certainement, ouais.
Parce qu'il faut tout réinventer. Il faut se réinventer dans toutes nos politiques publiques avec ouais. les mesures de distanciation physique, avec ces gestes barrières qui empêchent un certain nombre de choses. Donc, on se réinvente. On essaye d'être un peu innovant, comme on l'a été, nous, par exemple, avec le monde culturel qu'on a appelé à se produire via les réseaux sociaux, sur Internet, pour qu'on continue à proposer des choses
aux habitants.
La ville de Joigny, là, par exemple, on vient de lancer les coups de cœur des bibliothécaires qui parlent de leurs livres sur Internet, ce qu'on n'avait pas fait. Donc, on a précipité des choses, finalement, qu'on avait en projet et qu'on a réalisées.
Merci Nicolas Sauret. La nécessité d'un avenir, d'un éclairage sur l'horizon aussi qui vous attend, Marie-Claude Jarrot, pour le second tour, avec l'hypothèse du 28 juin prochain. D'autres évoquent, l'Association des maires de France en particulier, un horizon plutôt en septembre. Quel délai vous semble raisonnable aujourd'hui?
Le plus vite, le plus rapide, le 28 juin me me paraît un délai intéressant. Mais comme je vous l'ai dit, cela n'est pas très important par rapport à l'énorme responsabilité qui nous revient pour organiser le déconfinement. Comme l'a dit mon collègue, nous avons été des couteaux suisses, mais nous sommes encore toujours l'ultime recours. Oui. Donc, cette organisation du déconfinement nous oblige à innover dans tous les domaines. Le domaine de l'école, le domaine de la culture aussi, les domaines associatifs. Et puis, nous devons offrir à nos concitoyens, aux habitants de nos communes, la possibilité de s'aérer, de reprendre un peu de liberté, tout en leur demandant avec force et conviction de faire attention et de respecter les gestes barrières. Tout ça nous occupe, je dirais, jour et nuit. Donc, le 28, ça serait très bien, mais si
merci
c'est plus
beaucoup.
Tard, peu importe.
On vous entend. Marie-Claude Jarrot, maire sortante de Montceau-les-Mines en Saône-et-Loire, et Nicolas Sauret, presque maire de Joigny, installé en tout cas avec le conseil municipal lundi, et maire a priori le 28 mai. Vous nous le disiez. Merci à tous les deux.
Jusqu'à 20h, c'est le grand journal du soir sur Europe 1. Dans un instant, Wendy, deux artistes avec nous.
Bah oui, on parlait du monde de la culture. Ils sont là pour nous éclairer, un directeur de théâtre, un directeur artistique, une création suspendue et un avenir, là encore, à réinventer. Christelle Cholet, Philippe Lelouch sont avec nous sur Europe 1.
18h43, vous écoutez le grand journal du soir sur Europe 1 et Wendy Bouchard. Une fois de plus, vous donnez ce soir la parole aux artistes.
Oui, ils ont eux aussi un monde à repenser. Comment rouvrir les théâtres, comment retourner au concert ou au cinéma un jour, bientôt. Ce soir avec nous, Christelle Cholet, comédienne, chanteuse, humoriste, directrice du théâtre de la Tour Eiffel à Paris. Bonsoir Christelle.
Bonsoir Wendy, très heureuse d'être avec vous ce soir.
Eh bien, ravie de partager aussi vos interrogations et vos perspectives, comme les vôtres. Philippe Lelouch, comédien, animateur, directeur artistique du Théâtre de la Madeleine. Bonsoir à vous Philippe.
Bonsoir, je suis ravie de me retrouver avec deux super copines.
D'abord, j'avais une question similaire à vous poser sur votre état du moment. Est-ce que vous vous revoyez sur une scène, l'un et l'autre, comme avant ?
Moi, bien sûr, j'ai hâte de reprendre et j'ai juste hâte de reprogrammer tous les artistes qui étaient prévus au théâtre de la Tour Eiffel avant le Covid. Alors après, il y a toutes les interrogations qui sont liées à la période et comment on va faire. Et effectivement, à ce moment-là, on va devoir réinventer des choses peut-être. Dans mon dernier spectacle, effectivement, j'allais saluer tous les gens les uns après les autres dans la salle. Peut-être qu'on ne le fera plus, mais peut-être qu'aussi on le fera avec un nouveau sketch, avec des gants en plastique, avec je ne sais pas. Mais évidemment, tout est à réinventer par rapport à ça et je pense que les idées vont venir de la contrainte aussi.
La contrainte, en tout cas, elle existe, hein, Philippe Lelouch, parce que pour vous, il y a clairement un avant et un après, pour le comédien que vous êtes.
J'entends beaucoup ça et j'y crois pas. Je crois que les choses vont revenir comme avant et c'est souhaitable. C'est-à-dire, je crois pas que derrière, tout d'un coup, le monde va changer, qu'on va se mettre à porter tous des masques tous les jours de l'année et qu'on va plus toucher, etc. J'y crois pas. En tout cas, j'ai pas envie d'y croire. Oui. Si ça devait arriver, ce serait tragique. Donc, j'arrive pas vraiment, en mon âme et conscience, à me projeter dans ce monde-là. Je crois que les gens ont envie de retrouver la vie d'avant. Je pense que l'été va porter un peu les cicatrices de ce qu'on vient de vivre. Et très vite, elles vont être oubliées. Parce que je crois que tout le monde a une envie formidable de vivre et de rire, ce qui va dans notre sens. Oui. Et nous, les premiers, on a envie de les faire rire et de faire partie de cela, de se rendre enfin utile. Parce que c'est vrai que l'artiste, dans cette période-là, bah, il est comme tout le monde, il attend. Mais j'ai du mal. Je vous dis franchement, Wendy, j'ai du mal à voir les choses en noir. Moi, je les vois plutôt belles et bleues à venir.
J'aime vous entendre et entendre vos optimismes croisés, hein, Christelle Cholet et Philippe Lelouch. Mais il y a cette réalité. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec, quand on est comme vous, Philippe, directeur artistique d'un théâtre, comme vous, Christelle, directrice d'un théâtre à Paris, quand vous entendez ce rapport remis aux autorités par l'infectiologue François Bricker, qui préconise entre autres 1 à 2 sièges vides d'écart entre chaque spectateur, le port du masque pour les spectateurs, la suppression des entr'actes, la distanciation des acteurs et des musiciens, le nettoyage systématique des théâtres. Comment vous réagissez,
Wendy,
Philippe ?
Wendy, c'est se mettre au service de la médecine. On n'est pas médecin, on n'est pas scientifique. Et heureusement que la vie n'est pas que des clés pour obtenir un maximum de sécurité. Sinon, on ne ferait plus rien. Donc voilà, c'est savoir la vie qu'on a envie de mener.
Eh oui, mais Christelle, est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'il faut ouvrir dans de bonnes conditions ou ne pas rouvrir. Là, je reprends les indications de ce professeur.
Ce n'est pas viable pour un théâtre de faire une place sur deux quand on a un théâtre de 500 places. On ne peut pas louer son théâtre à 250 places. Les gens ne peuvent pas se mettre les uns...
À moins de doubler le prix des places. Hein. Oui.
Mais à moins de doubler le prix des places. Et puis, de toute façon, on veut pas ça. Le métier ne veut pas ça. Le théâtre doit rester ce qu'il est, accessible. Quelle injustice. Et puis, de toute façon, un mec qui éternue derrière vous, il a beau être à deux fauteuils, il éternue sur vous. Quand on va avoir des spectacles pour enfants, les enfants, ils sont ingérables. Je veux dire, dans un théâtre, une salle de théâtre, un enfant, ça se lève, ça crie, ça applaudit, ça rigole, ça touche le fauteuil de devant. Donc, voilà, ce n'est pas possible. Donc, soit on ouvre, et on ouvre, comme disait Philippe, comme avant, mais en tout cas toutes ces préconisations sont absolument pas viables financièrement pour des salles, et pas que pour nous. J'ai discuté avec des cinémas, des gens qui sont des exploitants cinéma, et ils ont le même avis que moi. Après, il y a d'autres gens qui ont peut-être d'autres avis. Après, on peut faire tout un tas de choses très sensées aussi pour l'accueil des gens. On peut mettre des gants à nos ouvreurs, on peut faire tout un tas de choses. On peut,
oui, vous êtes tous de bonne volonté, évidemment. Oui.
Mais bien sûr qu'on est de bonne volonté, évidemment. On n'est pas à refuser absolument tout ça, mais évidemment, c'est pas possible.
Philippe Lelouch.
Je partage complètement ton avis, évidemment. Et en plus, je pense que le médecin fait son travail, les scientifiques font leur travail. Maintenant, le rôle de ceux qui nous dirigent, c'est de dire, il y a un risque. Voilà, ce risque-là, je l'ai entendu, tel professeur m'a expliqué. Maintenant, je ne vais pas appliquer ça, parce que ce n'est pas viable. D'abord, de toute façon, ce n'est pas viable, ni pour les théâtres, ni pour le monde en marche, ni pour l'économie, ni pour tout le reste.
Avec l'horizon qui vous semble le plus réaliste, Christelle, c'est le mois de septembre, c'est ce qu'évoquent aujourd'hui tous les professionnels de la culture pour l'ouverture des théâtres qui vous concerne.
Oui, en tout cas, nous, on a fait des prévisions pour le mois de septembre en se disant que ce serait le bon moment pour... De toute façon, une programmation, même si elle est faite, il faut mettre des équipes en place, il faut faire une billetterie, il faut faire de l'affichage. Donc, c'est pas possible.
Oui,
il
faut tout relancer.
Demain, en une semaine, on ne peut pas dire on réouvre demain. Il faut tout relancer. Ce sont des paquebots, sur la mer, nos petits théâtres.
Mais idem pour vous, hein, Philippe Lelouch, pour le Théâtre de la Madeleine.
Ouais, mais tout pareil.
En tout cas, Christelle Cholet, Philippe Lelouch, vous qui êtes ce soir sur Europe 1, on n'a jamais eu autant besoin de lire, de partager. Et les artistes qui, comme vous, se sont succédés, nous l'ont bien dit sur Europe 1. Est-ce qu'il y a un texte, des mots que vous lisez ou que vous relisez volontiers pour vous aider à aller mieux en ce moment, Philippe Lelouch ?
Alors moi, vous allez me trouver très, très, très sérieux, mais j'ai remis le nez dans deux auteurs que j'aime particulièrement pour des raisons tout à fait différentes, c'est-à-dire Chateaubriand et Mémoire d'Outre-Tombe. Et à la recherche du temps perdu de Proust, qui est un chef-d'œuvre absolu avec des phrases très compliquées et tout ça. Donc j'adore. Et surtout, il y a une phrase.
J'applaudis, tu entends ?
Puis il y a une phrase que sur laquelle je suis tombé, pourtant Dieu sait si elle est vieille, comme quoi c'est bien d'apprendre tous les jours, de Socrate, sur laquelle je suis tombé. Je voulais vous la livrer parce que elle est géniale. Elle n'est pas forcément en rapport avec ce qu'on vit, même si c'est passant. Et il dit l'échec, la chute n'est pas l'échec. L'échec, c'est de rester là où on est tombé. Je trouve ça magnifique.
Ouais, c'est magnifique. Voilà. Ouais, c'est très bien.
À méditer.
Et je cogite beaucoup avec ça.
Moi, j'ai envie de dire plein de choses, mais comme ça se mélange un petit peu dans ma tête de blonde, et j'ai relu plein de petites citations d'auteurs par-ci, par-là. Je suis remontée dans le temps et j'ai trouvé une petite citation d'Henri Bergson qui dit « L'avenir n'est pas ce qui va arriver ». Mais ce que nous allons faire.
Ah, c'est magnifique.
Ouais. Et c'est ce dont on parlait tout à l'heure avec Philippe. Voilà.
Ouais, ouais.
Pour la prochaine. Alors, prochaine citation, si vous voulez, on va jouer. Qui a dit « Être bête présente un avantage, c'est que soi-même, on ne s'en aperçoit pas. » Petit A, Sibeth Ndiaye. Petit B, Tristan Bernard.
J'adore.
Wendy ?
C'est probablement Tristan Bernard, ouais.
Puisque tu cites Tristan Bernard, je vais vous faire rire avec un truc qui est tellement probant chez les artistes. Un jour, il avait dit « Est-ce que vous allez voir d'autres ?» On lui posait la question lors d'un interview. « Est-ce que vous allez voir d'autres gens au théâtre ?» Et il dit « Oui. Et quand c'est pas bien, je m'emmerde. Et quand c'est bien, ça m'emmerde. » Je trouve ça magnifique.
Et Wendy, j'en avais une aussi qui était vachement bien. Je ne connaissais pas cette phrase de Saint-Exupéry qui dit « Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants.
Oui. »
Et je trouve que ça résonne très très fort avec ce qu'on vit en ce moment, ouais, c'est-à-dire que il faut se pencher sur ce qui va se passer pour nos petites têtes blondes là. Attends, il y a un truc très
non, mais merci vraiment.
Il y a un truc qui résonne avec la façon dont on traite nos vieux aussi. Moi, j'étais très sensible à ça. Il y a Alphonse Karr en 1845 qui dit « Ne pas honorer la vieillesse, c'est démolir la maison où l'on doit coucher le soir.
Bon, »
Et voilà.
Et ben écoutez, vous avez parlé des enfants, vous avez parlé de nos aînés, vous avez parlé de notre avenir sur cette planète commune. Vous avez appelé à chacun à se réinventer, à construire notre monde de demain. On verra comment, mais en tout cas avec le plus d'optimisme et le plus de précautions. Liberté, c'est cette difficile équation qu'il faut gérer. Mais merci infiniment Philippe Lelouch et Christelle Cholet.
Merci
Wendy, Wendy, Wendy. Attends, une citation du moment, quand même la citation de la fin. Là, vous allez savoir qui c'est. Je vous autorise à partir en vacances cet été.
C'était Edouard Philippe, madame.
Bravo.
Merci beaucoup à tous les deux.
Merci
Philippe Lelouch et Christelle Cholet.
De vous entendre toutes les deux.
Gros merci bisous. Philippe.
À très bientôt. Merci beaucoup.
Ciao, ciao.
18h51, Wendy, pas d'Eurovision cette année.
Et non, le concours est annulé, mais les chansons qui, sans l'avoir gagné, ont connu un succès mondial, c'est la chronique de Fabien Lecoeuvre ce soir, à tout de suite.
Jusqu'à 20h, c'est le grand journal du soir sur Europe 1 avec Wendy Bouchard. Place maintenant à la musique avec notre rendez-vous, une chanson dans la tête.
En ce jour d'Eurovision annulé, vous le disiez, ce devait être ce soir, la 65e édition à Rotterdam, aux Pays-Bas. Bonsoir Fabien Lecoeuvre.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. Et oui, pour la première fois depuis sa création en 1956, un concours de l'Eurovision est annulé. Alors ce soir, France 2 diffusera quand même une soirée spéciale présentée par Stéphane Bern avec des clips, les 41 chansons qui devaient justement être en compétition et des invités depuis chez eux par téléphone ou par Skype, dont Tom Leb, bien sûr, le fils de Michel Leb, qui était en compétition avec son titre qui représentait la France, Mon Alliance.
Et donc ce soir, Fabien, vous allez nous parler de ces chansons de l'Eurovision. Ce qui est intéressant, c'est celles qui n'ont pas gagné, mais qui ont connu tout de même un immense succès après y avoir participé.
Exactement, et on va bien sûr commencer, Wendy, avec ce titre du chanteur franco-israélien Amir. C'était en 2016, et rien pourtant ne prédestinait ce titre, écrit en 2 heures pendant une nuit blanche, à connaître un tel destin.
Amir, c'était il y a 4 ans déjà, Fabien.
Déjà, oui, le 29 février 2016, ce jour-là, France 2 officialise la nouvelle que ce titre emmènera les couleurs de la France au concours. Et la finale se déroule à Stockholm, le samedi 14 mai 2016. Amir et son titre, J'ai cherché, arrive à la 6e place avec 257 points, ce qui en fait le meilleur classement pour la France depuis 2002. Ce bon résultat à l'Eurovision lui permet de devenir aussi l'un des grands tubes de l'été 2016, souvenez-vous.
Oui, on entendait l'anglais, mais il y a aussi évidemment une partition en français dans cette chanson. Autre titre qui nous propulse cette fois, Fabien Lecoeuvre, en 1976. Écoutez.
1, 2, 3, jouez, jouez, musicien. Enchantez-moi, magicien.
Ce titre à la une également.
Une chanson interprétée par Catherine Ferry, composée par Tony Rallo et écrite par Jean-Paul Carra. Alors ce fameux Jean-Paul Carra, c'est celui-là même qui fera L'oiseau et l'enfant l'année suivante en 1977 pour Marie Myriam. Et en fait, a représenté cette chanson, a représenté la France au 21e concours Eurovision de la chanson à La Haye le 3 avril 76. Pour l'anecdote, Wendy, parmi les 4 choristes qui l'accompagnaient ce jour-là, il y avait les frères Guy et Daniel Balavoine, qui étaient, Daniel, le compagnon de Catherine Ferry dans la vie, à l'époque. Et la chanson s'est classée deuxième avec 147 points, juste derrière le groupe anglais Brotherhood of Man. Et puis sur la face B, Wendy, la face B d'un, deux, trois, il y avait une chanson composée par Daniel Balavoine qui s'intitulait Petit Jean. Faut rappeler quand même que Balavoine partageait la vie de Catherine Ferry. Et pendant 4 ans, ils ont vécu une belle histoire d'amour ensemble. Et puis, alors que Balavoine était encore un illustre inconnu, surtout.
Eh oui, mais déjà choriste pour cette chanson 1, 2, 3. Autre style, on est en 1980, cette fois le papa pingouin représenté par des jumelles françaises, Sophie et Magali.
Le papa pingouin.
J'avais oublié, Fabien Lecoeuvre, que cette chanson avait concouru pour l'Eurovision. Franchement, au départ, c'était une farce ou pas? Parce que les paroles, c'est Pierre Delanoë, quand même.
Oui, en fait. Parce que surtout que les jumelles Sophie et Magali, Gilles, qui avait seulement 17 ans au moment où elles ont participé à l'Eurovision, le samedi 19 avril 1980 à La Haye, aux Pays-Bas. Alors, elles représentaient le Luxembourg lors de ce 25e concours. Elles sont arrivées quatrième quand même, avec 56 points. Mais la chanson a connu un immense succès avec plus d'1 million de disques rien qu'en France. Et les deux jeunes chanteuses se retrouvent en une de toute la presse jeune. Elles deviennent même mannequins pour le magazine OK. Mmh. Et la chanson a été écrite et composée par Jean-Paul Carat, toujours lui, sur un texte de Pierre Delanoë. Mmh. Ah oui, alors ce dernier a juste fait une erreur dans les paroles. Ça ne vous a pas échappé, Wendy, car il a confondu le pingouin avec le manchot. Les pingouins ont bien des ailes et peuvent voler. Ouais. Et à l'inverse, les ailes des manchots ne servent plus à rien. Alors avec le succès de la chanson, beaucoup de petites filles nées dans la seconde moitié de l'année 1980 se sont appelées bien sûr, pour certaines Magali et pour d'autres Sophie.
Voilà, les effets de mode. Autre artiste à avoir participé en parole et en musique du moins à l'Eurovision, Serge Gainsbourg.
Et oui, parce qu'en 1990, Serge Gainsbourg signe les paroles déjà de White on Black Blues. C'est la chanson qui représente la France au grand concours de l'Eurovision de la chanson. Avec ce titre qui défend le respect des différences, Joël Ursul se classe à la deuxième place ex aequo du concours et entre top 50. Alors, entre Gainsbourg et l'Eurovision, il faut rappeler que c'est une longue histoire qui démarre en 1965, quand avec l'une de ses chansons qu'il a écrite et composée, Poupée de cire, poupée de son, la jeune France Gall remporte le concours. Et là, je fais une entorse à notre propos tenu ce soir. Poupée de cire, poupée de son a bien gagné l'Eurovision en 1965. Rien que pour vous, Wendy.
Ah, merci, merci.
Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons. Poupée de cire, poupée de son.
Et on va terminer, cher Fabien Lecoeuvre, avec ce titre qui sent le sud en 1993, Mama Corsica. Mmh. Patrick Fiori à l'interprétation.
Absolument, et c'est une chanson écrite et composée par François Valéry et interprétée donc par Patrick Fiori pour l'Eurovision qui se déroulait à Mill Street en Irlande le 15 mai 1993. La particularité du titre, c'est qu'il est chanté en français et en corse. À l'issue du vote, elle a obtenu 121 points et s'est classée 4e sur 25 chansons. Voilà.
Merci beaucoup Fabien. Une chanson dans la tête, on se retrouve demain 18h50 sur Europe 1.
Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1. Il est 19h.
Et c'est l'heure du journal de Sophie Tussaud. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
J'ai trop hâte. Surtout, j'adore les jeux vidéo.
Ouais, c'est la première sortie et donc c'est le premier magasin qu'on fait suite à la réouverture. Et on a priorisé pour que le petit ça lui fasse plaisir.
Premier week-end de déconfinement et après 2 mois enfermés à la maison, les Parisiens ont pu faire du shopping cet après-midi et s'accorder quelques plaisirs.
Pour d'autres, pas question de rester en ville. Ce samedi était l'occasion d'aller en bord de mer ou de marcher en forêt pour prendre un grand bol d'air.
On a tous les boulots, les chênes, il y a de l'érable. Là, on respire un peu le grand air. Ça fait du bien.
À la réponse de la ministre de la Recherche à l'optimisme de Donald Trump, il va falloir encore attendre beaucoup de temps pour développer un vaccin contre le Covid-19.
Le développement des essais cliniques nous laisse espérer un vaccin à l'horizon de 18 mois. Mais ça n'est pas raisonnable de penser qu'on puisse aller plus vite que ça.
Et puis l'Italie annonce rouvrir ses frontières dans 2 semaines et demie, ce qui lui permettra d'accueillir des touristes européens pour la saison estivale.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Pour la première fois, Sophie Tussaud, après 2 mois de confinement, les Français peuvent profiter de leur week-end.
Oui, beaucoup de commerces ont rouvert cette semaine. Hélène Terzian, vous vous trouvez dans le 9e arrondissement de Paris. Après 2 mois sans shopping, est-ce que les Parisiens se sont précipités dans les magasins ?
Eh bien écoutez, ce n'est pas la grande ruée vers les boutiques. En revanche, on voit dans ce quartier très commerçant de nombreuses files d'attente dues aux mesures sanitaires qui s'organisent à l'extérieur des magasins et particulièrement devant une enseigne multimédia. Dans la queue, j'ai rencontré Jean et son fils Jules, trépignant d'impatience.
Ah, j'ai trop hâte. Surtout, j'adore les jeux vidéo.
Ouais, c'est la première sortie et donc c'est le premier magasin qu'on fait suite à la réouverture. Et on a priorisé pour que le petit ça lui fasse plaisir. Bon, c'est bientôt notre tour. C'est presque notre tour.
4, 3, et 2, et 1. Ah, c'est bon, on peut entrer.
Dans la rue voisine, pas de file d'attente devant la boutique de prêt-à-porter. Jessica peut tranquillement farfouiller dans les rayons.
C'est le premier shopping post-confinement. Donc voilà, ça fait du bien, on se fait plaisir et on est content de ressortir un petit peu. Honnêtement, on n'en a pas forcément besoin de ce t-shirt, voilà, de ce petit débardeur. Il est très mignon, on n'en a pas forcément besoin. C'est juste que voilà, ça nous fait plaisir d'avoir à choisir, de se balader. Voilà, c'est juste pour le plaisir.
Comme dans la majorité des boutiques de vêtements, impossible pour Jessica d'essayer son débardeur. Les commerçants veillent au respect des mesures sanitaires, mais sont ravis comme oudés de voir les clients revenir.
Ça repart, ça fait vraiment plaisir. Hein. Les clientes, elles ont envie, et puis avec les beaux jours, bah forcément, en plus on a beaucoup de thèmes fleuris.
Et vous, ça vous fait du bien?
Bah bien sûr, donc ça m'a manqué aussi pendant 2 mois.
En cette fin d'après-midi, les commerçants que j'ai interrogés ont rarement atteint la moitié de leur chiffre d'affaires habituel un samedi.
Hélène Terzian, alors shopping pour les uns, bol d'air pour les autres, ce week-end est l'occasion de se mettre un peu au vert, pour certains à la plage, mais pas question de bronzer ou de pique-niquer, seules des escapades dynamiques sont permises et à 100 km seulement du domicile.
Pour d'autres, c'est promenade en forêt, comme à Fontainebleau, on est à 70 km exactement de Paris, où beaucoup de franciliens ont retrouvé la nature, Nicolas Feldman.
Ah oui, et pour s'en rendre compte, hein, il suffit de voir toutes ces voitures qui s'alignent sur le parking et même jusque sur la route devant la forêt. Marine et son amie laissent derrière eux la capitale pour s'enfoncer dans les bois.
Je vais me balader pour ce premier week-end de déconfinement depuis 2 mois d'enfermement dans Paris.
On a tous les bouleaux, les chênes, il y a de l'érable. Là, on respire un peu le grand air, ça fait du bien.
Alors aujourd'hui, la forêt est redevenue ce terrain d'activité avec ses rochers prisés par les amateurs d'escalade, ses sentiers pour les randonneurs et les vététistes. Mais l'autre attrait ici, c'est ce qu'on appelle le cul du chien. C'est une grande étendue de sable fin en plein milieu des arbres, une sorte de plage mais sans eau. De quoi ravir Simon et Raphaël, 5 et 7 ans.
On met du sable dans le seau et après on va faire des tours et un château.
Assez aussi pour ravir le papa. La famille est arrivée d'Essonne à une cinquantaine de kilomètres et visiblement soulagé.
Oh bah c'est sortir de la maison. Sortir de la maison, aller être pieds nus dans le sable. Il y a un petit côté été, plage.
Une plage sans eau, très fréquentée cet après-midi, mais avec beaucoup d'espace. Pas de problème de rassemblement donc. Certains agents de l'Office national des forêts ont d'ailleurs tourné à pied ou à cheval pour s'assurer du respect des mesures de sécurité.
Nicolas Feldman à la forêt, en forêt, à Fontainebleau, pour Europe 1.
Pour que le déconfinement soit réussi, Sophie Tussaud, il y a évidemment les gestes barrières à respecter. Le gouvernement table aussi sur les tests pour détecter les personnes infectées.
Oui, ces tests, il devrait y en avoir 700 000 par semaine, un nombre pour le moment pas réalisable, Victor Delande, car la France se retrouve avec un stock d'1 million d'écouvillons pas adaptés pour les pratiquer.
Oui, les écouvillons, vous savez, ce sont ces longs cotons-tiges qu'on enfonce dans le nez pour voir si vous êtes infecté par le coronavirus. Pour augmenter la cadence de tests et atteindre les 700 000 par semaine, le gouvernement français a commandé 20 robots à la société chinoise MGI, des robots capables d'analyser 2000 tests par jour une fois les prélèvements effectués. La France a également commandé des écouvillons à cette société chinoise, sauf que les autorités françaises viennent de réaliser qu'une partie des stocks d'écouvillons destinés à ces machines chinoises ne sont tout simplement pas les bons. Ils sont utilisables que pour des prélèvements dans la gorge, mais pas dans le nez, comme c'est le cas pour la plupart des tests utilisés en France dans le dépistage du Covid-19. Selon nos informations, les livraisons de ces écouvillons au CHU qui détiennent les robots chinois ont donc été temporairement suspendues. Est-ce qu'il y a eu un problème dans la commande ou est-ce que la société chinoise n'a pas livré le bon matériel? La question la plus importante, c'est surtout de savoir que faire de ces écouvillons inadaptés. Sur ce point, le ministère de la Santé nous précise qu'il vient de solliciter l'avis de la Société française de microbiologie. Mais d'après plusieurs laboratoires que j'ai pu contacter, il y a très peu de chances que ces prélèvements dans la gorge servent à quelque chose car ils n'ont pas la même sensibilité. Ce stock d'1 million de longs cotons-tiges pourrait donc tout simplement ne servir à rien.
Victor Delande.
Oui, ça fait partie des côtés surréalistes de cette crise. En tout cas, pour stopper la pandémie et faire disparaître le Covid-19, eh bien, les espoirs sont tournés vers un vaccin, Sophie.
Et hier soir, Donald Trump, très optimiste, en annonçait un pour avant la fin de l'année. Un délai trop court, selon Frédéric Vidal, ce matin sur Europe 1, pour la ministre de la Recherche. Il faudra beaucoup plus de temps.
La recherche sur le vaccin, tout le monde en est bien conscient. C'est quelque chose qui prend habituellement plusieurs années. Mmh. Ce que nous disent les laboratoires, ce que nous disent les chercheurs, c'est que l'accélération qu'on a vue hein, dans le développement des vaccins et le développement des essais cliniques nous laisse espérer un vaccin à l'horizon de 18 mois. Mais ça n'est pas raisonnable de penser qu'on puisse aller plus vite que ça, sauf à mettre en danger la sécurité des gens, ce qui évidemment est totalement impossible.
Frédéric Vidal, ministre de la Recherche, invité ce matin d'Europe 1.
Et on en reparlera de l'élaboration de ce vaccin, des essais cliniques qui vont commencer dès le mois de juillet en France avec notre invité dans Affaires à suivre à 19h40, Olivier Schwartz, qui est directeur de l'unité virus et immunité de l'Institut Pasteur, Sophie.
Et on vient d'avoir le bilan en France, moins de 100 décès en 24 heures et la baisse se poursuit en réanimation. L'Italie veut être en mesure d'accueillir cet été les visiteurs étrangers, le tourisme étant une manne importante pour son économie.
Évidemment, et le pays s'est mis en ordre de bataille pour proposer des infrastructures qui permettront de mettre les vacanciers à l'abri du virus. Et il a déjà arrêté une date pour l'ouverture de ses frontières, Blandine Hugonnet.
Oui, ce sera le 3 juin prochain, deux bonnes semaines donc avant un retour des touristes ici. Les Européens de l'espace Schengen, mais aussi de la Suisse et de Monaco, vont pouvoir venir librement en Italie pour leurs vacances. À partir de cette date, la quarantaine obligatoire de 14 jours est supprimée pour tous ceux qui passeront la frontière. Alors le message de Rome est clair, il faut faire revenir rapidement les étrangers pour sauver la saison estivale. Le tourisme pèse lourd dans la richesse nationale, 13% du PIB, et le secteur est déjà à l'arrêt depuis plus de deux mois. Et puis le 3 juin, c'est aussi un retour à la liberté pour les Italiens eux-mêmes qui auront enfin le droit à cette date de circuler sans restriction entre chaque région après quasiment trois mois de confinement. Des décisions d'un gouvernement italien optimiste mais qui se veut prudent aussi. La contamination est désormais bien contenue en Italie mais si elle repart à la hausse, la réouverture des frontières pourrait être repoussée.
Blandine Hugonnet, correspondante à Rome pour Europe 1, et Christophe Castaner regrette cette décision italienne qui intervient après celle de l'Espagne cette semaine. Le ministre de l'Intérieur juge essentiel de coordonnées au niveau européen.
Oui, il était l'un des fugitifs les plus recherchés au monde, Félicien Kabuga. Sophie Tussaud, l'un des principaux accusés du génocide rwandais, encore en fuite, a été interpellé.
Mais oui, Wendy, c'est la police française qui a mis fin ce matin à 25 ans de cavale. Guillaume Biac.
Recherché sur toute la planète, il faisait même l'objet d'une récompense. 5 millions de dollars avaient promis les Américains en 2002 pour toute information permettant sa capture. Après des années de traque et plusieurs arrestations manquées, c'est finalement aux portes de Paris qu'il a été débusqué. Félicien Kabuga, 84 ans, vivait sous une fausse identité dans un appartement à Asnières, dans les Hauts-de-Seine. Ce matin, à 6h30, ce sont les gendarmes de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité qui l'ont interpellé, avec l'appui du groupe d'observation et de surveillance francilien et un peloton d'intervention de la garde républicaine. C'est grâce à la coopération entre les polices belges, anglaises, Europol et Interpol qu'il a pu être localisé. 26 ans après le génocide rwandais, il va maintenant devoir faire face à la justice pénale internationale qui l'accuse d'avoir organisé des massacres, incité à en commettre et d'avoir financé et armé des milices. La procédure française est désormais enclenchée pour pouvoir le remettre dès que possible aux Nations Unies afin qu'il puisse être jugé.
Guillaume Biet du service Police Justice d'Europe 1. L'universitaire franco-iranienne Fariba Abdelka a été condamnée ce matin à 5 ans de prison. Incarcérée depuis l'année dernière à Téhéran, elle a été reconnue coupable de collusion en vue d'attenter à la sûreté nationale. Paris dénonce une condamnation politique et affirme rester mobilisée pour sa libération.
C'était le journal de Sophie Tussaud, merci. Pardon de ces petites hésitations, mais nous sommes encore à distance, ce qui explique voilà ces petits cafouillages parfois techniques. Merci Sophie, on vous retrouve à 19h30 pour le rappel de l'actualité sur Europe 1 tout à l'heure. Le temps demain, quelques orages encore sur les Alpes ailleurs, c'est le grand beau temps Valérie Darmon.
Eh bien, des Pyrénées aux plaines du Languedoc, aux Cévennes, à la vallée du Rhône, le ciel est variable avec tout juste quelques averses dans la journée. Sur les Alpes, le ciel reste en revanche très chargé avec des orages de plus en plus isolés qui vont se calmer dans la soirée. Des ondées peuvent déborder sur la Côte d'Azur. Partout ailleurs, journée calme annoncée et ensoleillée bien sûr. Les minimales, 5 à 9 degrés sur la moitié nord, un peu frisquée toujours, ainsi que sur le massif central, 10 à 17 ailleurs. Les maximales, entre 18 et 23 en général. Du nord au sud.
La météo signée Valérie Darmon. Le grand journal du soir se poursuit jusqu'à 20h sur Europe 1 à suivre, Wendy.
Eh bien, hier à l'Elysée, Emmanuel Macron conviait des économistes pour penser les conséquences économiques et sociales de la crise. Quelles perspectives et quelles politiques pour les contrer? Je reçois ce soir le docteur en économie, Éric Ayer de l'OFCE.
18h-20h, Wendy Bouchard vous informe sur Europe 1.
Les magasins d'Arty sont ouverts. Reprenez le mouvement en toute sécurité grâce à la sélection d'Arty de vélos, trottinettes électriques et accessoires. De plus, le service Click and Collect vous permet de commander sur darty.com et de retirer vos commandes en magasin dans le respect des gestes barrières.
Leclerc. Leclerc a toujours répondu présent pour défendre le budget des Français. Aujourd'hui, Leclerc renforce votre budget avec des offres sur vos marques préférées.
Jusqu'au 23 mai chez Leclerc, pour l'achat de deux paquets de café moulu carte noire de 2 x 250 grammes chacun, le troisième est offert. Et ça, c'est du budget renforcé. Et avec autant de café, vous avez de quoi voir venir. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Voir modalités, magasins et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
19h13, le grand journal du soir, la suite sur Europe 1 avec nos invités, Wendy Bouchard, nos invités qui nous éclairent sur ce monde qui change et auquel on doit s'adapter.
Oui, auquel on doit s'adapter, Marlène, économiquement, socialement, parlant aussi avec des contours parfois difficiles à dessiner et on l'évoquait il y a quelques minutes avec le monde de la culture. Et pour notre société, une perte de production dommageable au PIB, dommageable à l'emploi évidemment. Bonsoir Eric Heyer.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en économie, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE. D'abord, comment analysez-vous cette réception d'une dizaine d'économistes hier par Emmanuel Macron à l'Élysée, de Daniel Cohen à Patrick Artus, de Jean Pisani-Ferry à Laurence Boone?
Bah, c'est une bonne chose. Effectivement, aujourd'hui, il faut déjà bien, pour combattre une crise, il faut bien l'analyser. Donc, c'est très important qu'il y ait une pluralité d'économistes qui soient entendus pour qu'on discerne bien le problème et les problèmes et pour essayer de trouver les solutions à ces différents problèmes parce qu'on voit que c'est pas très simple cette crise parce que c'est à la fois un choc d'offres, un choc de demande. C'est un choc de demande très particulier. Habituellement, quand vous avez un choc de demande, c'est assez simple. Il suffit de redonner du pouvoir d'achat aux ménages pour qu'ils reconsomment. Là, c'est bien plus compliqué comme choc de demande. C'est une consommation qui est empêchée avec une épargne qui augmente assez fortement, mais pas pour tout le monde. Donc, il va falloir faire des mesures extrêmement bien ciblées sur un certain nombre de personnes. Donc, c'est vraiment pas simple du tout. Et puis du côté de l'offre, vous voyez, c'est très compliqué aujourd'hui pour assurer que le salarié va retourner travailler. Qu'est-ce qu'on fait avec les écoles aujourd'hui? Parce que tant qu'on ne réouvre pas les écoles, eh ben, les personnes sont obligées de garder leurs enfants et donc ne peuvent pas les travailler. Mais en même temps, si vous ouvrez les écoles, il y a un risque de deuxième vague qui pourrait apparaître. Et là, ça serait une catastrophe, ces phénomènes de stop and go. De la même manière, on voit bien qu'il y a des coûts de production qui augmentent assez fortement avec les chaînes d'approvisionnement qui sont durablement affectées. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec le chômage partiel? Est-ce qu'on incite encore les personnes à rester chez elles? Enfin, vous voyez qu'il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui et il n'y a pas des solutions qui paraissent être complètement évidentes. Et le dernier problème qu'il faut quand même signaler, c'est que, vous voyez, est-ce qu'on souhaite revenir à la croissance qu'on avait avant cette crise? Vous voyez, on peut penser que aujourd'hui, certains le pensent en tout cas, que c'est une crise qui est complètement exogène au système économique. Et donc, il suffit de retrouver la croissance d'hier. Il faut aller au plus vite à la croissance d'hier. Et puis, on peut aussi penser à l'inverse que notre modèle de croissance est responsable de cette épidémie. Parce qu'il y a du réchauffement climatique et donc il y a des virus qui réapparaissent, parce que la mondialisation est là aussi pour accélérer ces processus d'épidémie en pandémie. Et donc il va falloir que l'on retrouve une croissance, mais différente. Et donc il ne faut pas faire une relance standard, mais bien une relance qui permet d'arriver à une croissance un peu plus soutenable de ce point de vue-là.
Vous dites beaucoup de choses, Eric Heyer. Il y a une certitude, c'est que l'INSEE expliquait récemment que chaque mois de confinement, le pays perd 2 points de croissance. Une des interrogations que vous soulevez, c'est est-ce que la consommation va reprendre ses droits? Est-ce qu'elle rattrapera le temps perdu? Et quand est-ce qu'on pourra en mesurer les premiers effets? Et là, on est dans vraiment une zone d'incertitude.
Mais oui, et effectivement, aujourd'hui, si les entreprises n'investissent pas, si les entreprises n'embauchent pas ou plus, c'est parce qu'elles n'ont pas assez de demandes. Et donc, et pourquoi il n'y a pas assez de demandes? C'est que globalement, il y a un certain nombre de ménages qui aujourd'hui soit ont été complètement empêchés de consommer, soit aussi parce qu'ils se sont aperçus finalement pendant ces périodes de confinement que on pouvait consommer différemment et en étant en se recentrant sur un certain nombre de dépenses de l'alimentation, mais en enlevant un peu le superflu. Alors, et donc, ce superflu qui permettait tout de même une croissance économique. Donc, il est possible qu'on ne retrouve pas la consommation que l'on avait avant cette crise. Et donc, du coup, il va falloir que les entreprises s'adaptent avec des éléments de croissance de la demande un peu plus faible.
Eric Heyer, ça veut dire en tout cas pour l'État un déficit à financer. Aujourd'hui, l'exécutif l'exécutif rejette toute augmentation des impôts, donc l'État va s'en sortir comment ? Avec l'emprunt, recours massif à l'emprunt ?
Ah ben c'est ça. Ça veut dire que les déficits vont très fortement augmenter. Et vous voyez que c'est un enjeu assez crucial parce que là aujourd'hui, les entreprises ont des grandes difficultés. Qu'est-ce que l'on fait ? Soit on va les aider, et là ça fait exploser les déficits. Soit on ne va pas les aider, et là il va y avoir des faillites et donc il y aura des destructions d'emplois. Et au final, il va falloir aider les ménages qui auront perdu leur emploi. Donc de toute manière, quoi qu'il arrive, il va y avoir une explosion des déficits et de la dette publique. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la France ne sera pas une exception. C'est-à-dire que dans tous les pays, on voit aujourd'hui apparaître des énormes plans d'aide, de soutien à l'activité, et donc des déficits et des dettes qui dérapent un peu partout dans le monde. On est dans une situation très particulière aujourd'hui où on a des banques centrales qui aident énormément les États et donc qui finalement font ce qui est nécessaire pour qu'il n'y ait pas de faillite potentielle des États, et des taux d'intérêt qui, même avant cette crise-là, étaient extrêmement faibles pour les États. Même la France levait à des taux négatifs. Donc on est dans un moment où, de toute manière, on n'a pas le choix, et on a la chance d'avoir et des banques centrales et une situation sur les financières au niveau des taux d'intérêt qui permettent aux États de financer tout cela par du déficit. Donc il va falloir, dans un premier temps, recourir à ce déficit et cette dette. On est autorisé à le faire, on a les moyens de le faire. Et ensuite, on se posera la question dans 2, 3, 4, 5 ans, à moyen terme, comment on finance cela. Alors il y a plusieurs pistes, et j'imagine qu'ils ont dû en parler hier. C'est-à-dire soit on monétise complètement cette dette et c'est la banque centrale qui les récupère et ensuite elle les garde pendant 30, 40, 50 ans. D'accord. Ou même elle peut, c'est la dette un peu perpétuelle, ou bien dans 5 ans on va voir les États qui petit à petit vont soit dépenser moins, soit augmenter un certain nombre d'impôts. Mais il y aura une discussion et ça va être ça les enjeux des prochaines élections, c'est que fait-on avec cette dette.
Il y a en tout cas une relance à réinventer. Éric Heyer, vous qui êtes à l'OFCE chargé aussi de cette prévision, de ces perspectives. Je voudrais que vous écoutiez ces mots du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui était jeudi soir invité de BFM Télé. Écoutez.
Nous sommes un des pays développés qui a le plus délocalisé son industrie. C'était une faute majeure. Maintenant, il faut relocaliser. Mais quand on dit relocaliser, ça ne veut pas dire nécessairement relocaliser des productions à faible valeur ajoutée sur lesquelles nous ne serions pas compétitifs. C'est nous battre pour que toutes les productions industrielles à forte valeur ajoutée, qui feront la différence avec la Chine, avec les États-Unis, reviennent en France, s'installent en France. Quand nous créons une filière de batteries électriques pour les voitures, avec notre partenaire allemand, c'est de la relocalisation. Plutôt que d'avoir 90% de nos batteries électriques produites en Chine ou en Corée du Sud, nous créons des usines en France qui créent des emplois, de la valeur, de la prospérité pour les Français.
Ça s'appelle un changement de cap notable, Éric Heyer. Relocaliser.
Oui. Oui, bien sûr qu'il va falloir une politique industrielle, et ça va être ça le pivot de la relance, c'est bien une politique industrielle. Mais vous voyez que c'était déjà un tout petit peu engagé, quoi. Faut pas penser que de toute manière le monde va changer à partir d'aujourd'hui de façon radicale. Mais
peut-être dans certains secteurs, notamment la production de médicaments, dont on souhaiterait qu'elle soit vraiment relocalisée en France, pour le coup.
Vous avez raison. Non, mais on se rend compte aujourd'hui que effectivement, il faut retrouver une certaine souveraineté dans un certain nombre de secteurs, et des secteurs que l'on appelle un peu qui produisent des biens communs, et la santé est un bien commun, et donc il va falloir effectivement qu'on retrouve cette souveraineté dans ces secteurs-là. Mais par ailleurs, c'était des tendances qui étaient déjà à l'œuvre avant. C'est-à-dire que globalement, le fait de délocaliser parce que les coûts de production étaient inférieurs dans les pays asiatiques, notamment, c'est de moins en moins vrai, parce que les salaires ont commencé à augmenter, et donc on voyait petit à petit, puis les coûts de transport ont fortement explosé, et puis on se rendait bien compte qu'il y avait des tensions aussi politiques ou des catastrophes naturelles qui faisaient que quand on était la production était très éloigné, on était paralysé. Donc il y avait bien une tendance à la relocalisation d'un point de vue régional. Il va falloir sans doute accélérer cette tendance. Alors, faut pas attendre non plus des miracles en termes d'emploi. On va beaucoup relocaliser en, on appelle ça de la robot-localisation, c'est-à-dire que c'est plutôt des grandes industries avec beaucoup de capital, beaucoup de robots et assez peu d'emplois. D'accord. Mais on va retrouver tout de même la souveraineté ici et il faut voir un peu le rôle d'entraînement de ces industries parce que autour des industries, il y a des services et c'est ces services aux entreprises et aux industries qui vont créer beaucoup d'emplois.
Eh bien, merci d'avoir pensé avec nous en partie les conséquences économiques et sociales de cette crise. Éric Ayer, vous qui dirigez le département analyse et prévision de l'OFCE.
Merci beaucoup. Jusqu'à 20h, c'est le grand journal du soir avec Wendy Bouchard.
Voici l'écho de la planète, chaque samedi sur Europe 1, le journal de l'environnement que vous nous présentez, Virginie Salmen. Bonsoir Virginie.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. À la une, comment éviter la pollution des masques jetables? La qualité de l'air s'est-elle beaucoup améliorée en Ile-de-France pendant le confinement? Et c'est le moment de sortir son vélo. Aide de l'État de 50 euros pour la révision et coup de pouce de votre entreprise entre en vigueur ces jours-ci.
Et d'abord, ces milliards de masques jetables que nous utilisons pour nous protéger du virus sont une nouvelle source de pollution, hélas.
Oui, et il n'y a pas encore de filière de recyclage. La secrétaire d'État à l'économie, Agnès Pannier-Runacher, le reconnaissait il y a quelques jours. Pour l'instant, les consignes, c'est de jeter ces masques dans des sacs en plastique fermés, dans la poubelle normale, grise. Ils seront ensuite incinérés. Et au moment où leur utilisation explose, on commence à voir des masques souillés jetés par terre, sur le trottoir ou dans la nature. L'ONG de protection de la mer, Surfrider Foundation, s'alarme qu'aucun programme de récupération ne soit mis en place, sa porte-parole Antidia Citores.
L'impact d'un masque et de tout produit plastique, il va être triple. Pour la biodiversité, parce qu'il va se retrouver, s'il est jeté par terre, il finit souvent en mer par le biais du cycle de l'eau, soit emporté par le vent, soit dans les caniveaux. Et donc les espèces marines vont le confondre avec leur proie, comme elles le font pour des sacs plastiques, pour des gants qui sont pas mal utilisés également dans cette période. Le deuxième effet, c'est que ces matières plastiques ont tendance à être des éponges à produits chimiques, à perturbateurs endocriniens et vont avoir de manière latente cette capacité à diffuser ces produits néfastes pour l'environnement dans le milieu marin. Ils sont aussi des vecteurs de transport de virus.
Et oui, parce que le plastique, c'est l'une des matières sur lesquelles le virus reste le plus longtemps. Commençons donc par utiliser des masques en tissu, propose la Surfrider Foundation.
Et pour les autres masques chirurgicaux en l'espèce, comme les lingettes ou les couches, ils mettront, sachez-le, près de 450 ans pour disparaître. Un geste qui vous paraît peut-être anodin, le jeter par terre a des conséquences donc catastrophiques.
Oui.
Ces deux mois de confinement, Virginie, ont-ils eu un effet net sur la qualité de l'air, et notamment en Ile-de-France?
Eh bien oui, c'est ce que confirme le bilan d'Air Paris pour la période qui va du 17 mars à fin avril. La pollution a été fortement réduite. Alors vous savez que pour analyser la qualité de l'air, on recherche différentes molécules, différents polluants. La baisse est très nette pour le dioxyde d'azote, c'est un polluant local, c'est-à-dire qu'il ne voyage pas dans les couches d'air sur de très longues distances. Émis essentiellement par le trafic routier, il a chuté de 20 à 30% selon les semaines et jusqu'à 50% le long des grands axes routiers. En revanche, la diminution de la pollution aux particules fines est moins nette, puisque ça ne dépend pas que du nombre de voitures ou de camions sur les routes, mais aussi du chauffage. Il faisait un peu froid, notamment du chauffage au bois, des épandages dans l'agriculture, c'était la saison, et la météo peut aussi jouer un rôle en piégeant ces particules dans l'air. Et puis, il y a des particules encore plus petites, qu'on appelle des particules ultra fines, qui peuvent être aussi petites qu'une molécule d'ADN et donc pénétrer profondément dans les bronches. Elles sont produites par le trafic routier et aérien et celles-ci ont baissé de 30 à 50%.
Et voilà pour le bilan. Et on va terminer avec le conseil de votre copine Catherine qui s'est mise au vélo.
Oui, elle avait commencé par tester les déplacements en région parisienne avec les Vélib. Elle vient de passer à la location de vélo à assistance électrique, la révélation. En l'occurrence, elle a opté pour un Véligo, le vélo de la région Île-de-France. Et c'est le moment puisque en 2 semaines, on a déjà aménagé en France 1000 km de pistes cyclables post-confinement. Et ma copine Catherine Margne vous conseille pour trouver votre itinéraire GéoVélo. C'est une application qui fonctionne dans une vingtaine de villes en France maintenant et qui vous indique le chemin soit le plus sécurisé avec des pistes protégées, soit le plus rapide. Et depuis cette semaine, vous pouvez apporter votre vieux vélo à l'atelier et le faire réviser gratuitement dans la limite de 50 euros de pièces et main d'œuvre. Vous n'avez pas d'argent à avancer. C'est l'opération coup de pouce vélo de l'État pour le déconfinement. Il faut juste vérifier que votre réparateur est agréé. Et depuis cette semaine également, votre entreprise peut mettre en place le forfait mobilité durable. C'est 400 euros par an et par salarié pour inciter à venir travailler à vélo.
Voilà, toutes ces incitations à rouler propre, c'était l'écho de la planète. On vous retrouve samedi prochain sur Europe 1 pour cette chronique. Virginie Salmen, merci.
Bonsoir.
Et le grand journal du soir se poursuit. Mais Wendy, dans quelques instants, l'essentiel de l'actu. Mais
oui,
pas seulement.
L'œil de Frédéric David de l'IFOP à suivre. Et puis, où en sont les essais du côté de l'Institut Pasteur pour la fabrication d'un vaccin anti-coronavirus? On fait le point sur Europe 1. A tout de suite.
On retrouve Wendy Bouchard pour le grand journal du soir, la suite sur Europe 1.
Si vous nous rejoignez en ce samedi 16 mai, voici l'essentiel de l'info, Sophie Tussaud.
Le bilan en France, moins de 100 décès en 24 heures, près de 27 700 au total. Le nombre de patients en réanimation continue de baisser. Le retour des Français à la plage, en forêt ou à la montagne, des escapades permises uniquement sous forme dynamique, sans bronzette, ni pique-nique et pas à plus de 100 km du domicile. L'Italie rouvrira ses frontières le 3 juin. Elle accueillera de nouveau les touristes de l'Union européenne et supprimera la quarantaine obligatoire pour les voyageurs étrangers de la péninsule. Les compagnies aériennes envisagent la reprise des vols nationaux le mois prochain et continentaux dès juillet. Un processus sanitaire doit être présenté à la fin du mois, annonce de l'IATA, l'Association internationale du transport aérien. Pas de vaccin avant 18 mois, déclaration sur Europe 1 de la ministre de la Recherche, Frédéric Vidal, qui contredit Donald Trump, qui en annonçait un pour la fin de l'année. Et puis après 25 ans de cavale, l'arrestation du financier présumé du génocide rwandais, Félicien Kabuga, l'un des fugitifs les plus recherchés au monde, a été interpellé ce matin près de Paris. Il y vivait sous une fausse identité.
Sophie Tussaud, merci, qu'on retrouve pour le journal de 20h sur Europe 1.
Il est 19h30, Wendy. Et voici, comme chaque samedi, l'œil de Frédéric David, directeur général adjoint de l'IFOP.
Oui, qui scrute pour nous les comportements des Français. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Avec votre dernière enquête IFOP fiduciale pour le JDD, très instructive, dans cette France qui sort du confinement, avec des Français en quel état moral, Frédéric?
Oui, c'est l'idée de voir, après cette période inouïe que le pays a connue, Wendy, quelle France sort du confinement, quel est l'état d'esprit des Français. Et très clairement, ce n'est pas une surprise, mais l'épisode Covid a renforcé le pessimisme français. Quand on interroge les Français sur leur optimisme par rapport à l'avenir et celui de leurs enfants, seuls 29% d'entre eux se déclarent optimistes. C'est un niveau jamais atteint depuis 25 ans. C'est une question qu'on pose depuis extrêmement longtemps. On l'a posé après le soubresaut de la crise des banlieues, des crises économiques de 2008 et 2011, après l'attentat terroriste. Et là, jamais le pessimisme a été aussi fort. Alors, il est majoritaire dans toutes les catégories, y compris les segments traditionnellement confiants, les jeunes, les catégories sociales supérieures. Très clairement, le pays ne sort pas indemne de cette période inouïe de confinement. Ça peut aussi changer si le déconfinement se passe bien, mais le point zéro est, si je puis dire, relativement inquiétant.
Oui, signe que cette crise est profonde et qu'au cœur de ce pessimisme, vous avez noté l'image d'une France qui ressort comme un pays bloqué, un pays qui n'a pas confiance dans son groupe, dans sa collectivité.
Tout à fait, là aussi c'est un indicateur qu'on suit depuis de très nombreuses années. On a une certaine ambivalence, pour ne pas tout peindre en noir, quand on interroge les Français sur l'image de la France, la première représentation qui émerge à 83%, c'est que c'est un pays qui a toujours beaucoup d'atouts. Mais c'est un pays qui est jugé en déclin à 66%. Il y a bien sûr le reflet des déficiences qu'on a vues pendant cette crise du Covid, notamment sur le secteur de la santé. Un pays qui manque de confiance en lui. Et puis, un indicateur qu'on suit depuis longtemps, il est jugé incapable de se réformer. 20 points de moins en 10 ans, bien sûr, sont passés par là les gilets jaunes, les réformes, notamment sur les retraites, et puis cet épisode Covid, c'est cette image d'un pays bloqué qui ressort à l'issue du confinement.
Ouais, ce qui est intéressant aussi dans cette enquête, Frédéric Dabi, c'est que vous voyez que cet épisode Covid a bouleversé vraiment les priorités des Français, a bouleversé leur attente en termes de prise en charge par les pouvoirs publics. Le premier enjeu, ce n'est pas très étonnant, restant la santé, Frédéric Dabi.
Oui, c'est un indicateur qu'on suit depuis une trentaine d'années, et c'est vrai qu'il y a un élément de continuité. La santé, on l'avait déjà vu, c'était notre premier échange, Wendy, en septembre dernier.
Absolument.
Que la santé était devenue la première préoccupation. À l'époque, il y avait la grève dans les services d'urgence. Il y avait déjà une inquiétude sur l'état de l'hôpital, les questions sur l'accès aux soins. Mais là, par rapport à septembre, 16 points de plus en termes de priorité. Seuls 2% des Français jugent cet enjeu secondaire. En parallèle, la question de la sauvegarde des services publics, et l'hôpital est bien sûr le service public par excellence, cette l'enjeu de la sauvegarde a pris une dizaine de points également depuis septembre, alors qu'en parallèle, les enjeux plus régaliens, sécurité et lutte contre le terrorisme, moins 15 points, la lutte contre la délinquance, ont
je dirais, je ne dis pas disparus, ils peuvent être facilement réactivés, mais ont se sont atténués ou on se sont estompés oui. dans le paysage politique des Français, dans le paysage de leurs préoccupations.
En revanche, est revenu au premier plan, très clairement, la préoccupation face à la crise économique du risque d'être au chômage.
Oui, c'est ce qui frappe. Hein. Les Français, et on l'a vu dans toute une série d'enquêtes parallèles, ont anticipé un contexte de crise économique très compliqué à venir, avec bien sûr la remontée du chômage qui remonte comme troisième préoccupation des Français. C'est intéressant, Wendy, cet enjeu avait disparu du discours des Français. Ils ne parlaient notamment que du pouvoir d'achat, que du travail qui paye mal. Et en parallèle de cette remontée du chômage qui s'installe comme troisième préoccupation, il y a un recul de la question environnementale. Et là, je veux dire, on est peut-être à la croisée des chemins. Est-ce qu'on va assister, comme dans les crises passées, dans les prochains mois, à une relégation des questions environnementales, hein ? On se souvient de la phrase cinglante de Nicolas Sarkozy au Salon de l'agriculture en 2010. L'environnement, ça commence à bien faire. Il s'était adressé à des agriculteurs et il stigmatisait les normes environnementales. Ou bien, la prise de conscience des Français qu'on a maintes fois souligné ensemble sur le dérèglement climatique, sur l'impact direct de nos vies, de ces questions environnementales, va-t-elle survivre à ce chômage de masse qui s'annonce ? Est-ce qu'on va cesser d'opposer la fin du monde et la fin du mois ? Et c'est une véritable inconnue alors qu'il est poursuite du cycle classique. En période de crise économique forte, le plus important, c'est le chômage, le reste ne compte plus. Ou bien, va-t-on retrouver un équilibre entre ces deux enjeux ?
Ouais, et comment faire en sorte que cet impératif environnemental ne soit pas relégué ? Ce qui explique d'ailleurs un certain nombre de tribunes et d'engagements de personnalités pour que ce monde d'après, justement, intègre dans cette relance les énergies renouvelables et le respect de l'environnement. Voilà pour cette étude nourrie sur les nouvelles priorités des Français après 2 mois de confinement. Et cette semaine encore, Frédéric Dabi, votre œil s'est arrêté sur l'univers d'un sport particulier, le sport à huis clos. Nous commencions d'en parler le week-end passé avec la reprise d'événements sportifs, notamment en Allemagne, la reprise du championnat de foot, mais tout ça, évidemment, à huis clos, redéfinissant même le principe du partage dans le sport, Frédéric.
Oui, c'est tout à fait nouveau, c'est une véritable rupture. Il y a le championnat allemand, la Bundesliga, qui reprend ce week-end. Il y a le président de la Fédération française de tennis qui a annoncé à Roland-Garros peut-être à huis clos. Des interrogations sur le Tour de France et au-delà des impératifs sanitaires, bien sûr, la sécurité sanitaire est la question majeure, mais on assiste à une véritable rupture avec le sport d'avant, où le public était complètement lié à l'événement et aux performances sportives. Le huis clos, c'est à la fois une perte de la ferveur populaire comme de l'interaction entre sportifs et spectateurs qui permettait aux sportifs de se transcender, de se défoncer, si je puis dire, pour prendre une expression triviale. Est-ce qu'on imagine, dans quelques semaines, quelques mois, l'ascension d'un col du Tour de France dans les Alpes ou dans les Pyrénées, un Nadal Federer au 5e set en finale de Roland-Garros dans un silence monacal ? Et c'est vrai que les retransmissions télévisées, même la voix chaleureuse des commentateurs d'Europe 1 à la radio ne pourront compenser cette perte. Et ça me rappelle une controverse philosophique mise en avant par Jean-Jacques Rousseau qui opposait le théâtre et la fête. Et ben avec ce sport à huis clos, on va passer de la fête qui donnait les spectateurs en spectacle, qui rendait les spectateurs acteurs d'eux-mêmes, à une sorte de théâtre d'ombre, un théâtre silencieux. Personnellement, je ne suis pas impatient de voir ça.
Oui, eh bien écoutez, beaucoup de choses se redéfinissent. On en parlait au point de vue culturel avec nos invités Christelle Chollet, Philippe Lelouch tout à l'heure. Et merci de prolonger aussi cette discussion et ces interrogations. Chaque semaine, Frédéric Dabi, vous qu'on retrouve samedi prochain pour votre œil sur le compte de l'IFOP et d'Europe 1. Merci Frédéric.
Merci Wendy, au revoir à tous.
À suivre dans le Grand Journal du Soir, Wendy.
Eh bien, dans un instant, où en est la recherche sur le vaccin contre le Covid ? Nous irons sur place à l'Institut Pasteur, vous éclairer. Et puis, dans l'ombre des grands chefs, recette chocolatée signée ce soir Cyril Lignac avec Pierre Herbulot. À tout de suite.
19h38, la suite du Grand Journal du Soir avec vous Wendy Bouchard et comme chaque samedi sur Europe 1, on prolonge un dossier au cœur de l'actualité.
Oui Marlène, et c'est la recherche d'un vaccin contre le coronavirus qui nous intéresse ce soir alors que les laboratoires n'ont cessé d'y penser et de tester, d'élaborer ces derniers mois. Bonsoir Olivier Schwartz.
Bonsoir.
Vous dirigez l'unité virus et immunité de l'Institut Pasteur et vous allez nous raconter comment travaillent activement vos chercheurs face à cet ennemi public numéro 1 avec toutes les précautions nécessaires. Mais d'abord avec vous, je voulais revenir sur un chiffre communiqué par votre institut. Moins de 5% de la population en France a été infectée à ce jour par le coronavirus, c'est-à-dire 2 800 000 personnes. C'est une bonne et une mauvaise nouvelle pour l'Institut Pasteur et pour vous et pour la recherche.
Eh bien, donc ce sont des chiffres très intéressants et riches d'enseignements. Officiellement, donc le nombre de cas diagnostiqués, c'est-à-dire de personnes qui ont subi un test, est de 200 000 personnes donc, qui ont été diagnostiquées comme porteuses du virus. Mais lorsqu'on fait des études épidémiologiques, c'est-à-dire lorsqu'on analyse au niveau de la population en faisant des modèles mathématiques, et c'est ce qui a été effectué par l'équipe de Simon Cauchemez à l'Institut Pasteur, ils ont effectivement estimé qu'il y avait environ 3 millions de personnes, 2,8 millions de personnes qui ont probablement été infectées au 11 mai, au moment du déconfinement. Et donc ça, c'est très intéressant parce que cela montre d'abord que le confinement a porté ses fruits, puisque il y avait à peu près chaque jour avant la mise en place du confinement plusieurs dizaines ou centaines de milliers de personnes qui se contaminaient, et maintenant on est descendu à peut-être entre 1000 et 4000 personnes qui malheureusement continuent à se contaminer, mais c'est beaucoup beaucoup moins que bien sûr avant le confinement.
Bien sûr, ce sont des résultats, si j'ose dire, satisfaisants. 5% de la population en France, 10% dans les deux régions les plus touchées, l'Île-de-France et le Grand Est, mais qui écartent à ce jour la piste de l'immunité collective pour sortir de la pandémie. On vous a entendu dire à plusieurs reprises qu'il fallait que 65% de la population soit immunisée pour que l'épidémie soit contrôlée par la seule immunité. Ça active encore plus la nécessité d'un vaccin contre le coronavirus, Olivier Schwartz.
Oui, tout à fait, puisque l'immunité collective, on parle même d'immunité de troupeau, de façon imagée, est calculée en fonction du nombre de cas qu'une personne infectée peut contaminer, et qui est estimée pour ce virus d'être environ 3. Donc, cela veut dire, comme vous l'avez dit, qu'il faut environ... Il aurait fallu atteindre 65% de la population française ou mondiale infectée pour que l'épidémie s'arrête d'elle-même. Donc ce n'est pas le cas, et on est loin du cas si on est à 5% de personnes infectées ou 10% en Île-de-France ou dans le Grand Est, comme vous l'avez rappelé. Cela veut dire que les mesures de protection de barrières naturelles sont nécessaires, vont diminuer la propagation du virus, mais la population ne sera pas naturellement immunisée. Et cela renforce bien évidemment l'intérêt ou le besoin d'avoir un vaccin efficace dans les mois qui viennent.
Et vous, à l'Institut Pasteur, vous êtes au cœur d'une course vaccinale mondiale. Il y a des centaines de laboratoires qui s'y mettent dans le monde, des dizaines d'essais cliniques déjà en cours. Le vôtre devrait démarrer au mois de juillet, c'est bien ça, l'Institut Pasteur ?
Normalement, oui, a priori, c'est ce qu'on espère. Alors, comme vous l'avez rappelé, il y a à peu près une centaine de candidats vaccins dans le monde qui ont été rapportés. Il faut faire attention à ne pas confondre un candidat vaccin avec un vrai vaccin qui peut être ensuite testé chez l'homme. On peut dire que la préparation, la mise au point d'un vaccin, c'est une course de haies. C'est un 110 mètres haies, sauf que ça ne dure pas 30 secondes ou une minute, mais ça va durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Et à chaque haie, à chaque obstacle, eh bien, une nouvelle question se pose. Et à chaque obstacle, il y a un go ou no go. C'est-à-dire, il faut franchir les étapes les unes après les autres pour pouvoir se diriger vers l'essai clinique et enfin atteindre donc un vaccin efficace chez l'homme. Et donc, il y a, comme vous l'avez dit également, il y a une dizaine de candidats vaccins qui sont maintenant en essai chez l'homme, en Chine, en Allemagne, aux USA et bientôt en France, comme vous l'avez rappelé, probablement en juin ou juillet.
Oui.
Il y a différents types.
Oui, allez-y, Olivier Schwartz. Simplement, vous rejoignez la ministre de la Recherche, Frédérique Vidal, qui sur Europe 1 ce matin disait qu'un vaccin n'apparaîtra pas sur le marché avant 18 mois. On est vraiment dans cet horizon ?
Bien, oui, je pense que c'est le chiffre raisonnable qui circule, et encore faudra-t-il que le vaccin ait montré son efficacité dans des essais de phase 1, 2 et 3, donc où il sera testé sur un plus grand nombre de personnes progressivement.
Oui, ce qui est très intéressant, c'est que... Olivier, allez-y, je vous en prie.
Non, mais ce que je voulais rajouter, c'est que les premiers résultats que l'on a pu voir montrent des signes positifs, c'est-à-dire le virus, enfin les candidats vaccins sont capables, dans différents modèles expérimentaux animaux, d'induire une bonne réponse du système immunitaire, une bonne production d'anticorps. Et ces anticorps, donc maintenant il faut déterminer s'ils sont neutralisants, bien sûr, donc s'ils ont une activité neutralisante dans des systèmes de culture cellulaire, par exemple. Mais ça, c'est encourageant. On peut dire en quelque sorte que la spicule, donc c'est-à-dire la partie extérieure du virus qui forme sa couronne, d'où le nom d'ailleurs du coronavirus, et qui permet au virus de rentrer dans la cellule et d'infecter de nouvelles cellules, peut être facilement ciblé par des anticorps, par le système immunitaire. Et donc ça, c'est un bon signe. Par exemple, dans le cas du VIH, on sait que c'est beaucoup plus dur d'obtenir ce genre d'anticorps neutralisants à large spectre. Donc, les vaccins qui sont en cours d'élaboration auront probablement la capacité d'induire une bonne réponse neutralisante. Après, la question, bien sûr, c'est est-ce que cette réponse sera suffisante pour protéger contre une vraie infection? Et bien sûr, une autre question est combien de temps cette protection pourra durer?
Oui, suffisante en tout cas comme protection pour empêcher de mourir demain à terme du coronavirus. Olivier Schwartz, c'est ce sur quoi vous travaillez, évidemment.
Oui, alors nos équipes de l'Institut Pasteur travaillent sur ces différents aspects. Pourquoi certaines personnes peuvent développer des infections plus sévères et d'autres des infections bénignes. Et donc ça, c'est très important de comprendre la physiopathologie de l'infection, les mécanismes de multiplication du virus, pour pouvoir préparer les vaccins correspondants et adaptés. Il y a un risque qu'il est important d'explorer et qui a été décrit avec d'autres candidats vaccins contre d'autres coronavirus. C'est le risque, au contraire, que le vaccin ait une réponse délétère et facilite même les signes cliniques lorsque la personne vaccinée pourra rencontrer le virus. Heureusement, on n'en est pas là, mais c'est quelque chose qu'il est important d'évaluer. Et tout ça va dépendre des différents candidats vaccins testés. C'est pour ça qu'il y a actuellement 10 essais cliniques dans le monde et probablement il n'y aura pas 10 vaccins différents qui seront disponibles, mais un ou deux, évidemment. Je ne sais pas. C'est trop tôt pour le dire, mais il faudra s'assurer à la fois de l'innocuité du candidat vaccin et de son efficacité.
Merci Olivier Schwartz. On suivra tout cela scrupuleusement avec vous, avec cette cohorte de patients volontaires à partir du mois de juillet pour ces premiers essais cliniques pour l'Institut Pasteur que vous représentiez ce soir. Merci beaucoup.
Et voici venue l'heure de notre rendez-vous gourmand, Wendy, dans l'ombre des grands chefs.
Rendez-vous chocolaté ce soir, je peux l'ajouter. On vous suit dans les pas d'un pâtissier reconnu. Bonsoir Pierre Herbulot.
Bonsoir Wendy, on va faire ce soir un gâteau gourmand croquant. Je suis sûr que vous me voyez venir sur le chef, c'est bien Cyril Lignac, cuisinier et pâtissier. On va s'attaquer ce soir à son tigré, j'ai vu des photos, ça m'a rendu dingue. C'est un genre de biscuit financier aux pépites de chocolat avec par-dessus une ganache chocolat également. Simplissime et j'en suis sûr, délicieux. On commence tout de suite par faire la ganache. Là, ce que vous entendez, c'est du chocolat que je mets dans un cul de poule. Et donc pour faire une ganache, c'est simple, il faut du chocolat et de la crème. Et donc là, je vais porter à ébullition ma crème. Voilà, ça va très vite, hein, il n'y en a pas beaucoup. La crème est à ébullition et là, je vais pouvoir la verser en deux fois sur le chocolat. Ça va le faire fondre. Première moitié. Deuxième moitié. Voilà, elle est magnifique, elle est bien lisse, elle est bien brillante, ça donne tellement envie, là c'est juste de la crème et du chocolat. Alors, maintenant, on met ça soit dans une poche à douille, soit là, j'ai pensé à vous. Alors, j'ai pris un sac congélation, on le ferme bien, et tout à l'heure, on mettra un coup de ciseau dessus, et ça nous suffira à pocher notre petite ganache, pour ce qu'on va en faire, ça suffit. Voilà, ça c'est fait. On passe maintenant à la deuxième étape, et dernière d'ailleurs, étape de notre dessert, donc le biscuit financier amande pépite de chocolat. Première chose à faire, c'est de mettre le beurre à fondre. Il faut qu'il ait une couleur noisette. Pour ça, on va le faire fondre une dizaine de minutes, donc à feu très doux, pour pas que ça brûle. Voilà, là, le beurre commence à avoir une couleur vraiment marron. Je vais le réserver, je vais le passer à travers un petit tamis pour éviter d'avoir le petit dépôt un peu brûlé qu'il y a au fond. Pendant que mon beurre refroidit dans la cuve d'un robot, je mets mon sucre glace, ma poudre d'amande, ma levure chimique, de l'autre côté le sel pour pas que ça se touche avec la levure, la farine. Et là on commence à battre
à vitesse lente. En attendant, on va clarifier nos œufs.
Je sépare les blancs des jaunes que j'utiliserai demain pour une crème brûlée, par exemple.
Toujours à vitesse lente, j'ajoute mes blancs d'œufs. Voilà, et là, je vais pouvoir ajouter mon beurre noisette qui a vraiment bien tiédi. C'est important pour pas faire trancher le mélange. Tranché, ça veut dire que le corps gras va se séparer du reste de la préparation. Il faut faire attention aux températures.
Alors, c'est pas mal du tout. On va pouvoir ajouter nos pépites de chocolat. Et voilà, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à cuire nos financiers. Le chef Cyril Lignac, lui, utilise des petits moules à Kouglof parce qu'ils ont une cavité au centre parfaite pour loger la ganache. Alors, j'en ai pas, mais c'est pas ce qui va m'arrêter, je vous rassure. Je vais utiliser des moules à cannelé et improviser.
Ça fait une petite vingtaine de minutes de cuisson. Waouh, ça sent tellement bon.
Je les ai laissés refroidir, la ganache aussi est à température ambiante. Hein. Et là, la fameuse improvisation dont je vous parlais, je creuse sur le haut de mon cannelé un petit trou pour y fourrer ma crème chocolatée. Voilà, je garnis bien généreusement de ganache crémeuse. Franchement, c'est magnifique. Je vous ai mis la photo sur mon compte Instagram, n'hésitez pas à aller voir. Alors,
c'est l'heure de goûter.
Enfin,
ah.
Enfin, bonsoir Victoria.
Bonsoir.
Ma goûteuse attitrée, je te laisse attaquer.
Oh, milieu, c'est tout, le chocolat est tout fondu, il coule. Oh, c'est trop trop bon, c'est délicieux.
Franchement, c'est indécent, tellement le rapport temps de cuisine, gourmandise est positif. C'est trop facile pour ce que
finit,
c'est.
Ça finit le gâteau, bravo.
Trop facile pour ce que c'est vraiment incroyable.
Ce sont les goûteurs qui sont indécents. Donc, Pierre Herbulot se régale sur Instagram, mais sur Europe1.fr, la recette dans le détail, chère Marlène.
Oui, avec tous les ingrédients et les proportions.
Reproduisez, juste un petit mot, parce que Thibaut Normand, qui suit assidûment sur Europe 1 ses recettes, c'est aussi son anniversaire, ah. Donc ce serait quasiment à nous de lui offrir les cannelés tigrés, mais je sais que c'est lui qui les fera mieux que nous. Merci et bon anniversaire.
Dans un instant, les petites voix d'Europe 1.
Oui, Europe 1 qui donne aussi la parole aux enfants après une semaine de déconfinement et le retour à l'école pour quelques-uns d'entre eux. On les retrouve autour de Xavier Yvon. À tout de suite.
19h52, on retrouve Wendy Bouchard pour la suite et fin de ce grand journal du soir.
Avec les petites voix d'Europe 1, les enfants qui ont la parole et une force d'analyse. Preuve dans quelques secondes, Xavier Yvon à vos côtés.
Oui, alors des enfants déconfinés ou encore confinés, ça dépend un peu de l'endroit où ils se trouvent. Ici à New York, par exemple, c'est toujours le confinement à l'américaine pour Sacha. En France, Marius et Violette vivent leur première semaine de déconfinement. Et c'est encore différent pour Olivia en Belgique et Rosalie en Allemagne. On va voir tout ça. Bonjour les petites voix.
Bonjour.
On va commencer avec un moment très attendu par beaucoup d'enfants depuis des semaines. Le retour à l'école, ça a commencé progressivement en France cette semaine. En Bretagne notamment, on va écouter les témoignages de Raphaël qui habite près de Rennes et de Paul qui est dans le Finistère.
On connaissait plus ma maîtresse parce qu'elle avait un masque. C'était rigolo parce que normalement elle fait tout pour qu'on fasse beaucoup beaucoup de travail. Et là elle fait tout pour qu'on fasse le reste du travail à la maison. J'avais des flèches au sol de ma classe. C'était obligatoire quand tu rentrais de la récréation, tu devais passer par le petit couloir qui menait au lavabo de la classe pour se laver les mains. Le matin, c'est pareil. Avant de sortir, c'est pareil. Donc, c'était très spécial.
Dans la cour, on a une zone par classe. Donc, on doit respecter la zone. Nous, par exemple, c'est toute l'herbe de notre école. Et on n'a pas le droit de s'approcher des copains. Mais quand même, de rester à un mètre de distance, c'est dur pour nous. Mais on se fait des passes quand même au foot. Avec le pied, mais on n'a pas le droit de prendre à la main. À la fin de la journée, on doit tout désinfecter avec une lingette, nous-mêmes, sur la table et sur les chaises. Ça me fait bizarre quand même, que je pensais pas que c'était autant de règles, mais ça va bien se passer.
Alors, beaucoup de règles, on vient de l'entendre. Vous en pensez quoi, vous, les petites voix?
Moi, Sèvres, j'ai toujours pas repris l'école aussi. Je trouve que c'est bien aussi, les flèches, tout ça, mais dans notre école, c'est pas trop respecté, apparemment. Sur mes 9 copains, j'ai appris qu'il y en avait qui retournaient pas à l'école juste parce que notre maîtresse ne faisait pas très attention.
Moi, à Berlin, j'ai repris l'école et il y a vraiment un tas de règles à respecter. Il y a 2 élèves qui se sont pris dans leurs bras et ils ont été punis. En fait, ils ont eu un avertissement qui, en fait, au bout de 3, tu pars de l'école. Donc ça incite à vraiment garder ses distances.
Moi, à New York, j'aimerais pas trop faire ça. C'est mieux d'être à la maison parce que
T'es pas grondée pour faire un câlin à ta famille. C'est comme plus facile que d'être à l'école, même si tu vois tes amis.
Moi, à Sèvres, j'ai mes copains qui ont fait la même chose, ce câlinet, tout ça. Mais en dehors de l'école, ils jouaient à trap-trap.
C'est quoi trap-trap?
C'est comme chat, sauf qu'ils s'attrapent. Comme ça, tranquille. Ils se touchaient, tout ça. Moi, j'avais trop envie, mais ma mère, elle m'a pas autorisée. Après, en plus, j'ai vu qu'ils respectaient rien. Parce que sur mes 6 copains, il y en avait une qui avait un masque. Et en plus, elle le portait même pas. Elle le mettait sur son cou. J'ai pu quand même leur parler un peu avec un mètre de distance, demander comment ça allait, s'ils allaient bien, tout ça. J'ai remarqué que certains, ils en avaient grossi. Moi, je crois qu'il y avait que mon père qui avait grossi, mais je vais pas citer de nom parce que s'il écoute, il va pas être très content.
Dans ma classe à Berlin, c'est les cheveux qui m'ont un peu impressionnée parce que, et il y en a où ça fait longtemps qu'ils sont pas allés chez le coiffeur et que ça c'est un peu long et désordonné.
Alors, Rosalie, on l'a entendu, tu es justement la seule à avoir fait ta rentrée cette semaine en Allemagne. Tu as retrouvé des amis. D'ailleurs, tu nous as amené une copine aujourd'hui. Bonjour Yara.
Bonjour.
Donc Yara et Rosalie, est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passe ce retour à l'école à Berlin?
C'est très bizarre et c'est vraiment difficile de respecter vraiment 1,50 m de distance.
Et puis en plus, on doit porter aussi un masque. Ben, c'est très conseillé. Et puis on est partagé en 2 groupes.
Ma maîtresse a dit que s'il y en a un dans la classe qui a le coronavirus, et ben tout le monde l'a.
Mais là, vous avez dit le mauvais côté des choses, mais est-ce qu'il y a aussi un bon côté de retourner à l'école?
Bah oui, parce que on voit les copines et moi je préfère vraiment travailler en groupe que toute seule à la maison isolée, parce que il y en a un qui pose une question, nous on n'a pas pensé à poser cette question, donc en fait je préfère.
Bon, alors il n'y a pas que l'école, les petits Français par exemple, ça va être votre premier week-end de déconfiné. Vous allez faire quoi? Vous avez des choses prévues?
Moi ici à Paris, ce week-end, pour la première fois du coup, on va avoir des gens, mais nos parents, ils nous ont dit qu'il fallait vraiment respecter les distances parce que rien qu'en invitant, par exemple, à prendre l'apéro, ça pouvait se propager. Et puis, j'espère quand même qu'ils vont mettre des bols un peu différents parce que je sais qu'il y a moins de risques de contaminer par le toucher, mais moi, ça me fait aussi un peu peur. Mais à la fois, je suis aussi contente de revoir des gens.
Moi, à Sèvres, il n'y a personne qui vient, ma mère ne veut pas.
En Belgique, on a le droit de voir 4 personnes tant que ça reste toujours les mêmes.
Moi, en fait, à Berlin, ça fait 3 semaines que l'Allemagne commence à déconfiner. Mais il faut vraiment voir progressivement une personne, après 2, après une famille de 4. Après, tu vas dans une maison de quelqu'un.
Moi, à New York, on est toujours confinés, mais on peut toujours partir en week-end. Le week-end dernier, on est parti à une île qui s'appelait Shelter Island. Donc c'est au bord de la mer et j'avais complètement oublié qu'il y avait le coronavirus parce que on portait pas de masque parce qu'il y avait personne à la plage. Je trouvais ça vraiment, vraiment super.
Moi ici à Paris, je pense qu'on a tous envie de s'évader un peu, d'arrêter de parler du coronavirus parce que c'est quand même ce qui sort de la bouche de tout le monde dès qu'on commence une conversation. On a envie de parler de n'importe quoi, mais d'autre chose. On a aussi envie de s'enfuir dans un pays magique où il n'y a pas de coronavirus.
Il ressemblerait à quoi votre pays imaginaire sans le coronavirus?
Tout rose avec des petites licornes et des paillettes.
Je pense que mon pays imaginaire, Harry Potter et tout ça, ça existerait parce que je kiffe trop.
Il n'y aurait pas le coronavirus, il n'y aurait pas des guerres dans ce monde. Il n'y aurait pas toutes les maladies et les pauvretés. Il n'y aurait pas Trump. Désolée pour cette parenthèse.
Mon pays imaginaire, pardon, ce serait un pays avec que du sable partout, comme une petite île où en fait il y a des hamacs partout et tu dors dans des petits îlots au bord de la mer où c'est tout gratuit, tu vois. Il y a des boissons, tu peux jouer à tout ce que tu veux, voler, foot, tout ça.
Moi, mon pays imaginaire, ça serait pas un endroit farfelu avec plein de choses qui n'existent pas spécialement. Ça serait un endroit où on serait heureux et sans le coronavirus, sans les maladies et tout ce qui peut faire que les gens soient malheureux, on va dire.
Moi, à New York, ce que j'aimerais bien faire, c'est voyager dans des livres que j'adore et en même temps voyager dans mon propre livre que j'écris.
Bon, bah voilà, les auditeurs des petites voix choisiront leur pays imaginaire préféré. On va finir là-dessus en rappelant, comme chaque semaine, la consigne qui vaut qu'on soit à l'école ou encore à la maison. Sacha,
stay safe and wash your hands.
Prenez soin de vous et lavez-vous les mains. À très vite.
À très vite. Merci Xavier et Yvon. Vendredi prochain, 9h-9h30, dans la matinale de Mathieu Béliard. Merci à Marlène Duret, à Romain qui était à la technique et à la réalisation ce soir, à Naïma Bencheman qui m'a aidé à programmer. On se retrouve demain dès 18h pour 2 heures d'information. d'informations, d'éclairage. C'est un grand plaisir de vous retrouver en télétravail, à distance peut-être, mais au plus près de l'info pour vous, chers amis auditeurs. Merci beaucoup de votre fidélité et c'est à suivre avec Lionel Rousseau.